Et bonsoir, salut, c'est Fred. On est le mercredi 5 avril, bienvenue sur Indécent Podcast. On démarre ce petit live, donc c'est la 8e carte blanche biblio, dites donc, dites donc, dites donc. Ça commence à passer, hein. Mais écoutez, ce soir, sans plus attendre, parce qu'on a quand même un gros paquet d'invités, puis des petits soucis indicibles, et, voilà, impies de fil de micro qui posent des problèmes, donc tout ça est réglé, on espère. Donc sans plus attendre, ben, voici mon collègue Antoine, qui on va commencer la soirée. Salut Antoine. C'est magnifique.
Salutations.
Il est
Voilà.
là.
On est là, on est
Il...
prêt.
Ouais, on est prêt. Nous, ça va, on est sur la
Voilà,
brèche.
on fait ce qu'on peut.
Ouais. On va déjà tout de suite, avant de faire entrer nos invités, comme je vous disais, en bonus, on s'est permis d'inviter un collègue, un presque voisin pour moi en tout cas, hein, puisque c'est voilà, Guillaume Sowinski, donc le président de l'association Miskatonic, qui est à Verdun.
Bonsoir. Merci, bonsoir à
Salutations.
tous. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'ai pas de petite musique, moi.
Ouais,
On
mais
trouve un truc, hein, il n'y a pas de souci.
oui, on va trouver, t'inquiète. toujours des...
Merci de
Voilà.
l'invitation, en tout cas.
Ben écoute, en fait, on a pensé à toi direct. Pourquoi? Parce qu'au dernier campus Miskatonic, donc qui était début novembre, hein, l'an
Oui, tout
dernier,
à fait.
ben, on avait eu la primeur. On savait déjà que la correspondance allait sortir chez Mnemos,
Eh oui.
puisqu'il y avait la conférence et tout. Donc, tu as vu, hein, en plus, on a fermé nos.
Bien,
Hein,
bien joué.
comment on dit dans le coin déjà, nos chenesses, c'est ça, ouais.
Ah, ça c'est plus du Beauzélan, peut-être bien. Ouais.
Ouais, mais je suis pas posé l'or, mais bon, tu vois, des fois, ça
Ah.
m'arrive, bon, voilà. Donc, voilà, bah, écoute, sans plus attendre, on va
Ouais.
recevoir nos invités. Donc, je me suis trompé, il n'y a pas Frédéric Vell des émissions de Nemos, il se repose, il nous a laissé entre nous. Donc, bah, tout de suite, David Camus, donc bonsoir, David, et Patrice Louvet,
Salut, bonsoir.
les tradu...
Ah, et
l'équipe de
bonsoir.
choc. L'équipe
Et
de choc de
bonsoir.
traduction, voilà. Donc, bah, pour commencer en douceur, c'est moi qui vais un petit peu lancer
Patrice, il est bloqué.
Ah
Quoi?
bon?
Non, non,
Non,
non,
non, je suis un moment immobile et j'écoute attentivement. Et
Voilà.
concentré, ça n'a rien à voir.
C'est beau. je vais juste enlever la
Voilà.
petite musique parce qu'elle était sympa, mais hop, voilà, c'est mieux.
Donc, non, on n'oublie pas rapidement pour le chat, pour ceux qui nous regardent là en ce moment, que s'il y a des soucis de son ou d'image, hein, vous n'hésitez pas à nous le dire au plus vite, on va le corriger de suite.
Ou pas.
On a déjà eu des problèmes avant, mais il n'y en aura plus, vous inquiétez pas, tout est réglé.
On a quelques grimoires pour essayer de régler le problème s'il faut.
Des chogottes qui
Voilà.
pompent derrière.
Exactement.
Les
Bon,
trois chèvres à
déjà dire...
sacrifier au cas où, c'est bon.
on va déjà dire bonsoir aux personnes qui sont déjà parmi nous. Donc, bonsoir Olive sur YouTube. Bonsoir Norman sur YouTube. Bonsoir Kizanor sur YouTube. Bonsoir Lunéa34 sur YouTube. Bonsoir Prétilite sur Twitch. Olivier Perroni. Tiens, bah, coucou Olivier. Ça faisait longtemps. Bonsoir Kane sur YouTube, bonsoir Chaîne d'Or, vive le Sud-Ouest en force, quoi. Olivier sur YouTube, et je pense que pour l'instant, j'ai oublié personne, bah, les autres qui arriveront au fur et à mesure, on fera un petit coucou vite fait. Donc, le thème de la soirée, bah, c'est de parler du financement participatif qui est en cours sur Ulule. On vous mettra les liens au fur et à mesure. Donc, bah, qui est déjà financé, hein, de toute façon, hein, on est déjà pas mal avec 567 contributeurs et déjà plus de 48 000 euros. Donc, on est à
Ça va, ça va, ça va, ça.
240%
Ça
de
se lance, ça
financement.
se lance.
Voilà. Mais c'est vrai que le nombre de contributeurs, voilà, c'est ce qu'on disait en off avant de prendre l'émission. On est déjà sur un rythme de croisière qui est quand même pas mal, plus de 500 déjà. Voilà, on sait qu'on va avoir un produit qui va être de grande qualité, un peu comme l'intégrale Lovecraft qui est déjà précédemment sortie chez Mnemos. Donc, bah, avant de commencer, bah, j'ai demandé aux invités de se présenter, y compris toi, Guillaume, d'ailleurs. Donc, vous présentez les uns les autres et bah, votre parcours rapidement. Donc, je commence d'abord par Guillaume et puis ensuite on en va par an, donc David et Patrice, si ça vous
Ok.
va.
Ben, bonsoir à toutes. Donc moi je suis à toutes et à tous. Je suis Guillaume Sowinski, donc je suis président, donc vous m'appellerez président maintenant, président
Oui.
de l'association Miskatonic, ben, qui est dédiée, comme son nom l'indique, à l'œuvre de Lovecraft. En fait, on a créé l'association en 2019 et on organise ce qu'on appelle le campus Miskatonic. Donc c'est une convention dédiée à Lovecraft et toute l'influence qu'il a pu avoir sur la pop culture. Donc la dernière édition a eu lieu l'an passé en novembre. On a eu le plaisir de recevoir Patrice et David, hein, avec une table ronde mémorable. On a eu droit à une annonce aussi mémorable par rapport au financement participatif qui est lancé depuis quelques jours, là.
Eh
Et
oui.
donc voilà, on organise ça. Puis tout au long de l'année aussi, on organise des conférences en ligne, puis deux, trois trucs, là. Puis le prochain campus Miskatonic, on en reparlera peut-être après. C'est pour
Oui.
novembre 2023, bientôt. Voilà.
Oui,
Voilà.
moi, les dates sont déjà cochées, donc ça, c'est bon.
Il faut, il
Et
faut.
on rappellera qu'il faut adhérer à l'association Miskatonic. 30 balles, c'est rien, quoi.
Non, puis vous avez une belle carte, des badges et tout ça, des goodies.
Ouais, et marque-page.
Mais oui.
Le marque-page, c'est très important. ensuite, bah, toi, David, si tu veux bien.
Alors moi, c'est David Camus, j'étais éditeur, j'étais agent, prof, tout ça spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, donc l'ASF, le fantastique, la fantasy, je travaillais chez Pocket et tout ça. Comme agent, je m'occupais aussi de tout ce qui était imaginaire, donc François Barranger, Joe Dever, ben, Minecraft, tout ce qu'on veut. Et puis un jour, j'ai tout quitté, j'ai quitté la France, je suis parti. Et j'ai retrouvé Lovecraft, voilà. Et donc, ça, ce qui m'a amené à faire l'intégrale chez Mnemos, là, qui est paru en librairie cette année et l'an dernier. Oui, envoyé au souscripteur en 2021. Et voilà. Et sinon, je connais Patrice depuis
2012. Donc,
2011. Et on a commencé à parler de ce projet de traduire la correspondance entre Howard et Lovecraft depuis 2012, si ma mémoire est bonne.
Ah ouais, c'est déjà un petit moment, quoi.
Depuis le départ, hein, quasiment. C'est, j'ai des brouillons de projets qui datent de 2012 en avant.
Oui, on en a parlé assez vite, alors... Alors du coup, je ne sais pas si ça déborde des questions ou pas, si ça anticipe sur une question à venir. Pour nous, c'était une évidence. On voulait que ces deux auteurs dialoguent en français, qu'on partage ça avec les lecteurs français. On était fascinés par ce truc. C'est vrai que ça n'a pas été simple parce que, je comprends parfaitement, hein, je pense que c'est un truc sur lequel d'ailleurs on n'a peut-être pas assez communiqué dans le financement, c'est que c'est énorme en fait, c'est absolument gigantesque, c'est pas deux livres, enfin quand on dit deux livres, de toute façon deux livres ça ne veut rien dire parce que
tout dépend de la quantité. David, tu sais qu'on est censé se présenter là. On est censé se présenter et on n'a pas envie que je parle.
Je me tais.
J'ai sorti mon buzzer pour te faire arrêter. Donc moi, c'est Patrice Tuinet. Autant David est multitask, autant moi j'ai l'impression d'être un monomaniaque. C'est même plus qu'une impression. J'ai quand même fait une bonne partie de ma vie à Howard et son œuvre. Donc dans ce que j'ai pu faire, j'ai dirigé la première édition des nouvelles de Conan, de Curl, etc. Aux États-Unis à partir des manuscrits, projet que j'ai ensuite amené en France chez Brajton, qui a donné une intégrale en 12 volumes. J'ai écrit le Guide Howard, je dirige la collection Conan le Cimérien chez Glénat. J'ai aussi, dans mon temps libre, soutenu une thèse à la Sorbonne sur Howard. Enfin, voilà, je suis co-président de la Fondation Howard aux États-Unis. Donc, pas mal de choses, et c'est vrai qu'il y a quand même un côté monomaniaque chez moi qui est soit une télité, soit un signe de folie, je ne sais pas, enfin, ce sera à vous de décider. Voilà, et donc, effectivement.
De bon goût.
Ouais, c'est pas. Bon, avec David, on s'est rencontrés en 2011, effectivement, et très très vite, on a sympathisé. Ce projet est rapidement vu dans nos échanges. Et on a travaillé déjà en tant que traducteur à quatre mains plusieurs fois. On a collaboré sur cinq, je crois. Et on s'amusait à traduire ça à deux. Donc, du coup, on est une sorte de tandem bien rodé en ce qui concerne la trad. Donc, du coup, je pense qu'on est, dit-il modestement, les traducteurs qu'il fallait pour ce projet.
Non, mais il y a un truc simple, c'est que Patrice et moi, on se parle.
Non, c'est surtout moi qui parle, en fait.
c'est moi qui parle, lui, il écoute, il fait croire. Et donc, l'idée de faire aussi dialoguer les auteurs qui nous passionnent, je veux dire, à un moment donné, je ne sais même pas qui de lui ou de moi a eu cette idée, c'était juste là. Hein.
Voilà, donc, ce qui est bien, c'est que, comme vous avez pu le constater à l'antenne ou sur YouTube ou je ne sais pas où, il y a quand même une différence, enfin on s'entend très bien, il y a quand même nos différences qui fait qu'on va très facilement se mettre dans la peau de nos personnages, auteurs respectifs. Quand il s'agira de s'envoyer des petites piques comme ça par traduction interposée, on y arrivera facilement.
Sans doute, mais ça, c'est notre jeu à nous. Il y avait un commentaire hier sur Rollis TV qui était intéressant, quelqu'un qui parlait du côté jeu de rôle. C'est-à-dire jeu de rôle, mais à la fois entre Ward et Lovecraft, c'est-à-dire le rôle qu'ils jouent l'un par rapport à l'autre, mais aussi peut-être nous deux. Enfin, moi, je ne sais pas pour Patrice et Ward, mais enfin, moi, je ne prends pas du tout pour Lovecraft. Hein. Il peut y avoir. Non, mais de toute façon, entre deux personnes, on trouvera forcément des points communs. Fatalement. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ça, mais bon, je fais quand même la différence. Mais c'est vrai que c'est un auteur. Patrice, tu parlais de côté monomaniaque. Moi, je ne dirais pas que je ne suis pas monomaniaque de Lovecraft. Il y a d'autres auteurs qui me hantent, enfin, dont lui, évidemment. Mais c'est les rapports à l'imaginaire, les rêves, des choses comme ça. Je pense qu'on est tous hantés par des choses. Alors après, ça s'incarne. Il y a des conversations qu'on a, on peut vous dire, avec Patrice depuis 10 ans. Voilà, c'est pas qu'on choisit nos auteurs, c'est qu'à un moment donné, on est choisi par eux. Et je pense que dans le lien qui existe entre Howard et Patrice, il est très spécifique et particulier. Moi, je pourrais jamais avoir ce type de lien avec Howard. Et le lien qui est entre Lovecraft et moi, il est aussi assez particulier. Et ça, c'est lié à l'histoire familiale, à la psychologie, à des choses comme ça. Mais ce lien que j'ai avec Lovecraft, je ne l'ai évidemment avec aucun autre auteur. Et d'une certaine manière, ça m'intéresse pas de l'avoir avec un autre. Et là, je laisse parler Patrice ou vous tous.
Ouais,
je me tais.
On se prendrait en élection présidentielle avec un petit sablier.
Comme on disait, Patrice, donc tu es un grand traducteur donc de Robert Howard, comme tu disais. Donc là derrière, bon, ça se voit à peine, mais il y a les deux gros intégrales qui sont parus chez Brass Jaune de Conan et de Solomon Kane.
Oui.
Avec Solomon Kane, je trouve ça fabuleux de l'avoir mis dans cet écrin-là parce qu'il le méritait.
Oui.
Et puis ce guide-là aussi.
Oui.
Donc le guide Howard chez ActuSF, qu'on vous conseille fortement si vous aimez le personnage. Voilà. Et la première question pour la mise en place de l'édition de ces correspondances entre ces deux grands auteurs. Est-ce que c'était vraiment la fantaisie pour Howard? Oui. Pour Lovecraft, je ne sais pas comment le classifier à cette époque-là. Maintenant, c'est plus facile, on le met dans le fantastique, mais à l'époque, c'était quand même de la fantaisie et de la SF, quoi.
Hein, on le met dans le fantastique, oui. Enfin, je veux dire, il pourrait être dans la SF aussi. Hein.
Ouais, clairement.
Il est juste plus simple, je crois, d'utiliser, parce qu'en anglais, le terme fantaisie ne regroupe pas la même chose qu'en français.
Exactement.
Donc, ouais. Du coup, pour les anglo-saxons, il ressort de la fantaisie. Alors que pour les Français, c'est pas de la fantaisie. Tout ça sont des étiquettes qui me gênent beaucoup.
C'est fluctuant. Non, mais ce n'est pas une question de marketing, c'est une question de rangement dans les bibliothèques et de pouvoir, à un moment donné, je veux dire, ce n'est pas parce qu'un livre se trouve dans un rayon qu'il n'est pas capable d'en sortir. Le lecteur lui-même est capable de l'en sortir. Hein. Bon, il faut bien qu'il soit quelque part pour pouvoir être trouvé, sinon il est nulle part. Donc, c'est presque par défaut, j'allais dire. Mais Lovecraft a fait aussi de la fantasy. Hein. Le cycle des contrées du rêve, la quête onirique de Caleb l'inconnu, des choses comme ça, ça relève quand même pas mal de la fantasy.
Clairement. Et donc la première question, c'était pourquoi ce projet fou de traduction de la correspondance entre ces deux auteurs? Est-ce que ça vient justement tout de suite après l'intégrale de la trad que tu as fait, David, chez Mnemos de tout Lovecraft? Ou comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui était déjà en préalable avant l'intégrale chez Mnemos? Comment ça s'est passé?
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a la correspondance avec Nemos, donc le projet éditorial en quelque sorte, ouais. Et ce désir avec Patrice de traduire la correspondance, de traduire et d'annoter. Hein. Dès le début, l'idée, c'est quoi? C'est traduire tout, si possible, même si on sait que c'est un projet de fou, et annoter tout. Enfin, faire l'édition critique la plus. Parce que, quitte à rêver, dans les rêves, on est millionnaire. Hein. Donc, bon, on a rêvé le projet ultime avec les photos, les facsimilés, les lettres, l'appareil critique, les notes de bas de page, les préfaces, des choses, du matériel supplémentaire par rapport même à l'édition américaine. Et ensuite, évidemment, quand on a présenté Patrice et moi ce projet aux éditeurs, tout le monde nous a dit non. Alors, en gros, pendant 10 ans. Mais il y a un mais important, c'est l'intégrale publiée là chez Mnemos en 2021, enfin celle qui a été envoyée au scripteur en 2021. Et ça a changé la donne, hein, malgré tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais on peut peut-être tenter le coup. Donc on a reproposé, Patrice, tu peux raconter la suite de l'histoire, mais on a reproposé le projet à Frédéric Veil, le patron de Mnemos, qui cette fois-ci a dit, ben non, ben on tente le coup.
On tente le coup. Voilà, il a tout dit, hein.
Ouais, et vous parliez d'iconographie, qu'est-ce qu'on pourra trouver comme document? C'est un truc, moi, je trouve ça super intéressant qu'on n'ait pas seulement, entre guillemets, les lettres et puis les notes de bas de page, mais de l'iconographie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme document dedans? Qu'est-ce qu'on pourra admirer?
Dans la façon dont David et moi avons conçu l'intérieur, dans notre projet idéal, hein, pour l'instant, on arrive à. On est quasiment à 49 000, donc on a juste un best-of. Avec deux volumes. Il est très clair que pour moi, et je pense que c'est pareil pour David, le projet, pour moi, il n'est pas financé. Ce n'est pas le projet dont je rêve. Ce n'est pas le projet que je porte, qu'on porte depuis 10 ans. Maintenant, on voudrait arriver vraiment à avoir le collector ultime, entre guillemets, donc un 3 volumes reliés, et donc avec un intérieur, avec une iconographie intérieure qu'on a voulu exclusivement années 30. Donc, enfin, États-Unis, années 30, contemporaine de nos deux auteurs. Ça veut dire qu'on veut inclure des photos, évidemment. On veut inclure Donc, moi, quand je dis photos, c'est des photos, évidemment, des deux auteurs, mais des endroits où ils vivaient. Moi, dans ma collection perso, il se trouve que je possède des photos originales que Howard a prises et qu'il a envoyées à Lovecraft et qui sont parues dans un musée. C'est moi qui les ai récupérées. Donc, du coup, voilà, avec des gens dodo, c'est tout qu'il a envoyé à Lovecraft. Il s'est envoyé des coupures de presse. Et on a, en fait, lorsque Lovecraft ou Ward mentionne un fait divers, avec une référence à tel ou tel article, dans la plupart des cas, je pense que David a fait la même chose. Moi, je sais que je l'ai fait pour Ward, mais j'ai l'article en question, j'ai les correspondants, j'ai… Voilà. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir un livre enrichi, mais pas enrichi au sens numérique, au sens papier, véritablement, d'avoir… effectivement les lettres, leur teneur, et d'avoir un maximum de choses de l'époque qu'on puisse inclure de façon… Alors, pour un lecteur américain, il y a certaines choses qui seront évidentes, mais pour un lecteur français, il manque quand même tout le contexte culturel américain, typique des années 30, etc. Donc, il y a des choses qu'on tient, on tient à contextualiser tout ça, aller au-delà de simplement livrer un texte brut, parce que c'est une correspondance qui est majeure. Elle est majeure pour les deux hommes. Elle est majeure pour l'histoire de Weird Tales, de Clark Ashton Smith et de tous les auteurs qui gravitaient autour. Et elle est aussi importante parce qu'on a quand même deux intellectuels des années 30 aux États-Unis, un vivant dans un milieu urbain, l'autre vivant dans un milieu rural, qui discutent de tout et n'importe quoi. Ça peut aller des recettes de cuisine à la politique, aux pièces qu'ils ont pu, enfin aux pièces qu'on peut jouer à la radio, au monde de l'édition. Si ça passe vraiment à la philosophie, enfin, ça passe par tous les domaines, et on a affaire à deux types qui sont deux intellectuels, mais deux intellectuels atypiques. Ce qui fait que c'est une correspondance qui est d'une richesse monstrueuse, et cette richesse, pour moi, elle résonne bien au-delà du petit monde de la fantasy et des geeks, etc. Elle est passionnante. En soi, même si vous n'avez jamais lu du Cthulhu ou du Conan, on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette correspondance si on a un minimum de curiosité intellectuelle.
Oui, voilà, une espèce d'instantané de la vie intellectuelle dans les années 30. Ce qui est intéressant d'un côté, Providence, la vieille Angleterre, et puis le Texas, la frontière, ça c'est super intéressant, quoi, ces échanges, j'imagine.
Mais il y a un côté bouillon littéraire et intellectuel. Hein.
Clairement, hein, c'est assez sympa. Il y a un moment, il y a Howard qui mentionne dans une lettre à Lovecraft qu'il y a Bonnie and Clyde qui viennent de passer par Crossplanes. Ils ne sont pas arrêtés. Hein. Mais voilà, ce genre de choses qui permet d'ancrer véritablement ces lettres dans leur époque, dans leur jus, et alors qu'il y a certains passages qui sont justement toujours intéressants aujourd'hui sur des discussions, on peut dire, plus philosophiques. Mais la partie historique ancrée dans le réel, le climat, etc., c'est juste fascinant.
Oui, super intéressant.
Au-delà de ces deux hommes, comme le dit Patrice. Et bon, en plus, c'est Lovecraft et Howard, c'est-à-dire, dans le cadre d'Howard, l'un des pères fondateurs de la fantasy, dans le cadre de Lovecraft, quelqu'un qui va incarner à un moment donné un mouvement fantastique qui n'avait jamais été fait jusque-là, enfin, je veux dire, et qui, d'une certaine façon, qui n'avait jamais été fait. Puis ce qu'il faut avec Lovecraft, c'est que même s'il a été imité je ne sais combien de fois par je ne sais combien d'artistes dans je ne sais combien de domaines, d'une certaine manière, il n'a jamais été imité correctement. C'est lui. Il y a qu'à regarder les continuateurs, les Derleth et autres, et je peux avoir du respect pour certains d'entre eux. On est toujours un petit peu déçus, hein, malgré tout. c'est pas Lovecraft. Il y a à un moment donné, comprendre ce qui fait que cet auteur est lui et pas un autre, c'est intéressant. Et on peut le comprendre en le lisant. Hein. Je veux dire, c'est dans les nouvelles, hein. Il suffit de le lire. Il faut le lire bien, et on peut comprendre. Paradoxalement, c'est pas en utilisant ces mots.
Ok.
Désolé les gens, hein, on a des mini coupures de notre côté, donc si vous avez des coupures de votre côté, merci de nous le dire, hein, parce qu'on a des soucis avec la plateforme là. Hein.
Bon, moi, je n'ai pas de coupure, je peux parler si vous voulez.
D'accord, parce que
moi j'ai une petite coupure aussi.
Mais voilà, c'est juste pour savoir, c'est juste de notre côté, pareil pour les gens qui nous regardent, hein, parce que on n'arrive pas à voir. Bref, du coup, pour ce méga projet, niveau traduction, vous en êtes où déjà? Est-ce que le projet est déjà entièrement traduit ou ça, c'est que le début? Vous en êtes où à peu près dans tout ça?
Oh, dans ma tête, moi, tout est traduit.
Et sur le papier?
C'est la tête qui compte.
Il y a
compte,
quelques trucs, il y a peut-être 2 pages et demie. Non, on n'a pas. Moi, je n'ai pas entamé du tout. Hein, c'est...
Non, je n'ai... Alors, soyons clairs, moi, je n'ai pas commencé non plus. Fred m'avait posé la question tout à l'heure.
Oui, en refait.
Juste, non, mais pour vous imaginer le truc, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas ici s'il y a des personnes qui ont participé à l'intégrale Lovecraft avec Nemos. Moi, je suis sorti de ce truc dans un état... rétamé comme jamais dans ma vie. Hein. Donc, le temps de me remettre debout. Et d'ailleurs, vous constaterez qu'il y a quand même eu entre l'envoi de l'intégrale au souscripteur et puis le lancement de cette campagne-là. Je m'y perds même dans les années. Là, mais c'est un an et demi. Un an et demi. Oui, ben, moi, j'ai travaillé sur des romans. Là. Donc, je vous le dis tout de suite. Là, je suis en train de finir le deuxième de romans qui sortent dans 6 mois et l'autre dans un an. L'idée, bon, j'espère finir la semaine prochaine ou l'autre, ça sera, à mon avis l'autre sera réglé, mais et ensuite on attaque le truc, on y sera complètement. Le projet, encore une fois, c'est un projet énorme, c'est vraiment je pense que nous-mêmes, Patrice et moi, je ne veux pas parler pour Patrice parce qu'à mon avis lui il sait, bon, en tout cas moi je ne sais pas, j'ai pas encore pris la mesure du truc. La correspondance de Lovecraft, c'est un certain nombre de volumes, mais ça, dire les volumes, ça ne veut rien dire, d'une certaine manière, parce qu'il faut être ensuite dedans et faire l'appareil critique. C'est juste énorme. Et ça, on en prend la mesure quand on y est. Et je pense que c'est pareil, les gens qui nous suivent peuvent aussi en prendre la mesure une fois que nous, on y est et qu'on partage un peu au jour le jour nos impressions de traducteurs.
Et vous connaissez le nombre de signes à peu près que ça va faire? Enfin, c'est une question un peu technique, mais c'est...
Oui, pour l'intégralité, environ 3 500 000 signes.
D'accord, ah ouais.
Mais est-ce que ça vous dit... Ben voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que souvent, moi, quand je dis ça, des gens autour de moi, dans ma famille, hein, enfin, les gens ne sont pas forcément à des habitués de l'édition. 3 500 000 signes.
C'est immense. C'est
beaucoup.
Gigantesque.
Tu meurs, là.
Oh, ouais, non, c'est...
Parce que là, oui. l'intégrale...
Pour donner une idée à ceux qui ont acheté l'intégrale Lovecraft, ça correspond aux 5 premiers volumes et demi.
Ouais.
En gros, aux 5 premiers volumes, en gros.
Aux 5 et demi, Fred, il nous a donné le chiffre.
C'est pas rien.
Donc, ça fait beaucoup de pages, on va dire.
Pour ceux qui ont lu mon journal, mes préfaces, tout ça, mon journal, mes préfaces, c'est 300 000 signes. Donc, vous imaginez, c'est 12 fois ça. OK, 12 fois ce truc.
Ça, c'est de la correspondance. Hein. Wow. Eux seuls, ils ont fait marcher la poste américaine pendant des années.
Lovecraft,
voilà. Façon blanche. Voilà. Oui. Donc, c'est aussi pour ça que le projet a le coup qu'il a, hein, très clairement, c'est parce que ce sont 3 énormes volumes qui sont en préparation. Ce n'est pas 2 petits livres de 13 pages chacun, c'est vraiment 3 mammouths qu'on espère annoter, qu'on espère illustrer. Donc voilà, et plus on avance dans le financement, plus on se rapproche de Louis Diffultin, qui est de pouvoir livrer cette édition-là.
Ouais, parce que j'ai
honnêtement, j'allais dire, on sait qu'il y a un côté impossible. Mais je veux dire, c'est un impossible qui vaut la peine d'être tenté. Je ne sais pas si tous les impossibles valent absolument la peine d'être tenté, mais celui-là, oui, on y tient. Ouais. Et le pire, c'est qu'on peut y arriver. Je raconterai peut-être une anecdote que je t'ai raconté, Guillaume.
J'aime ton enthousiasme.
Non, mais qu'est-ce qui nous reste? Enfin, je veux dire, on a le droit de l'être quand même dans la vie, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, quand je regarde l'actualité, je me dis, si on n'est pas un peu enthousiaste ou idéaliste pour d'autres choses,
oui, c'est
pour d'autres choses. Ben oui, non, mais donc voilà, c'est presque un devoir, quoi. Et je raconterai peut-être une anecdote tout à l'heure. Je raconterai que j'avais raconté à Guillaume à propos d'une gamine que j'ai croisée lors de mon voyage de Providence à Indianapolis où je me rendais à la Gen Con, qui m'a dit un truc qui m'a profondément marqué. Et ça a changé parce qu'elle a raison. Cette fille, je dirai plus tard.
C'est un roman en soi. Ouais.
Et moi, ce qui m'a interpellé, parce que je regardais ce matin un petit peu, tu sais, les petits commentaires qu'il y a pendant le financement depuis que, enfin, moi, je sais que j'ai pledgé. Il y en a qui parlaient du prix, trouver ça cher. Donc, ouais. Je crois que c'était aussi important de dire à quoi ça correspond. C'est pas trois petits bouquins, quoi. c'est The Mouse truc, quoi. Donc,
trois énormes volumes qui correspondent, comme je l'ai dit, à 5 volumes et demi d'intégrale Lovecraft. Et évidemment, on parle de correspondance. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va se vendre en livre de poche une fois que les bouquins seront parus. Je ne sais pas trop, on ne peut pas s'avancer, c'est difficile, mais ça serait bien. Mais je ne suis pas certain du tout que ces bouquins se retrouvent un jour en librairie. Donc,
C'est difficile. Pour répondre à la question d'Alexis, elle est intéressante. Bonjour, il faut savoir que. Non, mais le coût. Qu'est-ce qui coûte de là on est dans le schéma de l'économie du livre. Qu'est-ce qui coûte dans un livre? C'est quoi le coût? Mais dans le cadre d'une traduction, à votre avis, qu'est-ce qui coûte le plus? C'est pas l'impression. Enfin, l'impression va coûter. Alors, de mémoire, je crois d'ailleurs que les frais d'impression ont augmenté. Enfin, je pense que les relises savent ça par cœur.
Oui,
aussi.
Oui, partout,
40% sur un. C'est un truc de fou. Oui. Ça, il faut s'en rendre compte. Et si on veut comparer par rapport au prix des livres précédents de l'édition de Nemos, on était très clairement très, 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 très peu cher. Très anormalement peu cher. J'allais dire. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Et je faisais autrefois des comptes d'exploitation quand j'étais éditeur. Je tombais à la renverse. Et non, 30 euros en gros le volume pour un truc comme ça, relié, cartonné, avec la couverture en bleu. Étant donné ce qu'il y a dedans, c'est normal. Si ça pouvait être moins cher, ça changeait notre rémunération.
Pour répondre à la question d'Alexis qui apparaît sur l'écran, c'est très simple, hein, c'est une question économique, hein, là aussi, hein, c'est des coûts, hein, coûtera toujours moins cher d'imprimer trois gros livres que quatre livres de taille plus petite, parce qu'il y a la reliure et tout ça.
Ouais.
On a vraiment calculé, on a vraiment passé beaucoup de temps à examiner la faisabilité économique de ce projet. On ne s'est pas lancé dedans, Nemos ne s'est pas lancé là-dedans par hasard, c'est vraiment, comme vous savez, comme on l'a dit, ça fait 10 ans qu'on rêve de ce projet, donc on a a priori trouvé la solution qui permet de rendre ce projet viable. Là, on est arrivé, on n'est pas loin des 50 000 du palier suivant, et on espère que voilà, la lancée qu'on a pu voir hier, elle va se poursuivre, parce qu'évidemment, plus on avance, plus on débloque de choses. Et donc, plus on se rapproche, encore une fois, je me répète, de l'édition dont on rêve.
Et pour parler pour parler coulisses, si ça peut intéresser les gens, comment un projet est mené, de mémoire, Patrice, tu me corriges, pareil, je crois qu'on en a reparlé à Mnemos en février 2022, c'est ça? Janvier
l'intégrale c'était, c'était un peu plus
avant
ça,
mais
oui.
Oui, un truc
comme ça. Oui, il y a ça, un peu avant ça.
Pour vous dire que
c'est ça fait plus de 15-16 mois minimum que le projet est « ok, c'est bon, on le fait ». 16 mois.
Travailler, où on a eu des réunions entre nous pour savoir comment on fait. Et puis pareil, je veux dire, pour Nemos, à un moment donné, Patrice et moi, c'est une chose, j'allais dire, ok, mais Nemos, il y a une prise de risque également qui dit « bon, voilà, on tente le truc, on y va ». On verra. Honnêtement, regardez le paysage éditorial français depuis, je dis 50 ans pour être sympa. Qui a tenté ça?
Non, mais clairement, voilà. Pas des masques.
Personne.
Quoi,
hein. Personne. C'est unique. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein, mais c'est unique.
Justement, j'avais une petite question là-dessus, avant qu'on passe aux autres, ça m'y fait penser. Comme tu montrais les bouquins en VO, la correspondance, elle existe déjà en américain ou ce sera vraiment quelque chose d'exclu français, pour le coup?
Elle existe en américain, chez Hippocampus Press. en deux volumes. Mais c'est normal, l'anglais est plus concis que le français, donc ils peuvent faire des... Voilà, David nous les montre. Et qui sont annotés,
mais
qui
non seulement c'est plus concis, de... mais regardez la taille. Non, mais c'est illisible. Pardon, pour quelqu'un comme moi, c'est illisible. Hélas, je le regarde.
Ah, mais voilà, c'est illisible pour tout le monde. Hein,
de plus riche, effectivement, en termes de contenu.
Ouais, donc on aura quelque chose qui fera peut-être en plus, enfin on va se le souhaiter à tous, hein, mais qui fera en plus date au niveau éditorial dans la façon de fixer cette correspondance, cette part d'histoire en fait.
C'est oui, bien c'est ce qu'on espère. C'est bien ce qu'on espère.
Tu parles d'histoire, mais pour la littérature en général, c'est vraiment notre truc. C'est ce dialogue-là, si tu veux, entre ces deux auteurs, pour la littérature, je dis bien en général. Voilà. Sans compter que c'est un document, effectivement, sur les années 30, sur les États-Unis des années 30, qui est sans équivalent, hein, c'est sûr.
Voilà. Bah alors, on va pouvoir voilà. J'allais montrer maintenant la page du financement, quand même, parce que c'est bien d'en parler, mais oui. Montrer un petit peu aux gens, quand même.
Hein. Le nerf de la guerre.
Tout à fait. Oui. Hein. Tadam, effet spécial.
Voilà, c'est fait par un professionnel, ça se sent.
Ah bah oui, il y a eu des heures d'expérimentation. Hein. Toutefois, il n'y a pas eu de blessé. Parfait. Donc, comme on peut le voir, hein, quasiment 50 000, et de toute façon, même au moment où un petit peu en off est là, le chiffre n'arrête pas de monter, c'est impressionnant. Et on est à 569 souscripteurs, c'est déjà sacrément impressionnant, sachant qu'on parle d'une correspondance. Hein. Ce n'est pas pour l'édition de Lovecraft ou...
De Ward.
Non. Déjà, pour vous, pas ce chiffre, il est marquant ou pas pour vous attendiez à autant ou pas
Alors, c'est pareil. Là, je parle en tant qu'ancien éditeur et en tant qu'ancien agent. J'avais estimé à l'époque, mais je me suis bien planté sur l'intégrale. L'intégrale, j'avais estimé qu'on ferait, voilà, qu'il y avait un plafond, à peu près à 1000. Bon, l'histoire m'a donné tort parce que c'était 5 fois plus que ça. Mmh. Là, je disais, la correspondance est quand même très pointue, etc. Je pensais plafond 500. Mais bon, comme je me suis planté sur le précédent, j'avoue, je dis 500 en sachant que je vais, pas d'ailleurs, on voit déjà que j'ai eu tort. Mais, c'est-à-dire que ce chiffre-là est intéressant parce qu'il montre quand même que le paysage éditorial et dans le financement et dans l'approche de ces littératures et dans le goût aussi pour ces littératures et leurs auteurs, ça a terriblement évolué depuis l'époque où j'étais moi en France, c'est-à-dire 2017, quoi.
Ouais, puis après, il y a eu pas mal de choses sur France Culture, avec des sites Lovecraft, des présentations, des textes lus. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui, comme tu dis, qui ont bougé dans le paysage. Quoi.
Mais plus le temps passe, plus Lovecraft. Pardon. Juste un truc. Plus le temps passe, plus Lovecraft est d'actualité. Ça, c'est clair. Vous relisez les textes, vous relisez Nyarlathotep dans le volume 5. Plus le temps passe, plus Lovecraft est d'actualité. C'est un classique. Il n'y a pas de doute.
Il y a sans doute la sortie de la biographie en français enfin en 2019. Je crois que c'était un marqueur aussi par rapport à la popularité entre guillemets de Lovecraft pour le grand public. Quoi. Donc ça en a remis une couche aussi. Je pense que ça a permis de lancer ce genre de projet.
On arrive sur un plan plus général. Je pense aussi qu'on arrive maintenant dans une époque où on a une première génération qui était des passionnés qui ont transmis leur passion à une génération de lecteurs. Qui a donné naissance à une deuxième génération de gens un peu plus pointus, mais amateurs, au sens noble du terme. Et maintenant, on arrive à une époque où il devient envisageable, faisable, réalisable, de faire des études universitaires sur Lovecraft, oui, sur Tolkien, sur Howard aussi maintenant. Donc, ça veut dire que ces gens qui ont été très longtemps la chasse gardée des geeks, des nerds et tous ces bannis de la société. Maintenant, les bannis de la société, quelque part, ils sont en train d'arriver de dire, ben non, ça, c'est notre littérature. C'est pas parce que nos aînés n'ont pas su la lire, n'ont pas su la comprendre que c'est pareil pour nous. Il y a des choses intéressantes à faire là-dedans. On peut le faire, on peut y aller et ça se fait. Donc, il y a une légitimité qui s'installe sur ces œuvres. Donc
c'est vrai.
Ça veut dire que ce côté geek niche est en train de disparaître quelque part et que ces auteurs sont en train de rentrer. C'est plus vrai, enfin, c'est plus difficile pour Howard pour pas mal de raisons, mais ils sont en train de rentrer dans une sorte de mainstream maintenant, de la culture mainstream.
C'est de la littérature. Non, mais je veux dire, à un moment donné, non, mais il faut savoir pourquoi on s'intéresse aux livres, ce qu'on va chercher dans les livres d'une façon générale. Et c'est un débat assez intéressant. Il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. À la fois dans le rapport qu'on a à ces auteurs et dans le rapport que ces auteurs avaient à leurs travaux, à leurs écrits, et peut-être aussi dans le rapport qu'une certaine littérature, appelons-la de l'establishment, a à la littérature en général. La littérature, c'est quelque chose de bourgeois. C'est-à-dire que pour pouvoir écouter, j'allais dire, entendre de la musique, ça vous le faites intuitivement. Voir un tableau, je ne parle pas de l'éducation du goût ou de l'éducation de l'ouïe ou de l'œil. On n'a pas besoin d'aller à l'école, en gros, pour écouter de la musique ou pour voir un tableau. Pour lire et écrire, oui. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le regard aussi porté par une certaine littérature sur ces littératures-là, entre guillemets, de genre, a peut-être contribué aussi à les chasser et à leur donner aussi une certaine valeur et un certain attrait pour des personnes qui, de leur côté, pouvaient se sentir un peu en marge. Bon. Mais c'est de la littérature. Hein. Je veux dire, si à un moment donné, on parle de Howard, de Dick, de Lovecraft, de Tolkien, comme on en parle et comme on les étudie aujourd'hui,
ouais. Ou c'est de leur qualité par exemple. Propre.
Hein. C'est de leur qualité d'auteur. Hein.
Bien évidemment, mais la différence n'est pas de ça, puisqu'on est tous ici convaincus, mais je sais que ma thèse, moi, 20 ans plus tôt, j'aurais jamais pu la porter à la Sorbonne. Hein. C'est évident. Jamais, ça n'aurait jamais
été. Parce que les générations évoluent. Parce que, comme tu l'as dit à un moment donné, les personnes qui ont grandi avec se l'approprient, ont envie de travailler là-dessus et ont transmis le flambeau à des enfants. Il n'y a plus de honte. Enfin, moi, je ne sais pas si vous nous voyez ou pas.
Oui.
J'ai un copain, un ami qui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Faites-moi un signe.
Oui, très bien.
Est-ce que vous m'entendez? J'ai disparu.
Oui, oui. Limbe. Non, non, tout est bon.
On entend.
Oui, on rappelle donc que David est en Pologne. Donc il y a aussi des sautes au niveau de la connexion. Voilà. Ça, vous savez, tout sur les coulisses. Donc de toute façon, ce qu'on disait, les appareils critiques dans les études, même au lycée ou ailleurs, on peut citer du Asimov, du Ursula Le Guin, tous ces auteurs-là, ils sont rentrés dans la littérature. Philippe K. Dick est devenu excessivement important, donc Howard et Lovecraft forcément avec. Quoi. Et puis de toute façon, nous, quand on était gamins, on étudiait quoi, du Jules Verne, des choses comme ça, qui étaient déjà de la science-fiction en fait.
Donc, oui, bien sûr.
Ouais, à chaque génération, ça rentre petit à petit.
Disons que voilà, le fantastique à l'école s'arrêtait à Théophile Gautier, c'était l'auteur le plus récent.
Au passant,
voilà, c'était l'or là.
C'est bon. L'or là, David, très hein. Bien, mais oui. Ouais, c'est bon, David, on te revoit.
Oui, c'est pareil pour la culture des jeux de rôle.
Après, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je pense que c'est le gros coup d'accélérateur, ça a été le film, la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est ce qui a fait que derrière.
C'est ce que j'aurais dit aussi.
Ouais, oui. C'est devenu cool. Hein. Depuis, c'est devenu cool pour tout le monde. Et puis, après Game of Thrones, on n'en parle pas.
Je te dire, je passe mon temps dans Tolkien, là, en ce moment. Je suis en train de relire ça. Alors, justement, en termes d'édition, avec je fais un coup de pub pour un auteur que je ne traduis pas et une maison qui n'est pas. Pour laquelle je ne bosse pas. Mais là, en termes de travail sur une conférence de Tolkien, l'appareil critique. Qu'est-ce que c'est génial ce truc, c'est-à-dire que c'est pareil. Quand on voit que la présentation d'un texte, ce que ça permet d'apporter aux personnes qui finalement connaissent pas si bien le texte que ça, même si elles ont pu le lire quelquefois, ce qui était mon cas, ce truc est génial. C'est ce qu'on souhaite offrir ici aux lecteurs en France pour Howard et Lovecraft.
Ouais, oui, c'est vrai qu'en France, pour Tolkien, on a Anne Besson et Vincent Ferré, hein, donc on peut leur rendre hommage pour un travail de fou furieux. Au niveau fantasy et tout, donc bon, pour revenir, donc voilà, je te laisse reprendre la main, Antoine, parce que
non mais voilà, vas-y, hein, moi je montre un petit peu, voilà, la bête même, hein.
Ouais, donc ça là, c'est ce qu'on aimerait que ça devienne, en fait.
Voilà, donc on veut partir de ça, on arrive à là, voire à ça.
Exactement. Bon, on rêve les plus fous.
Et voilà. C'est à partir de combien, du coup? Parce que c'est vrai que je t'avoue que j'ai pledgé tout
alors,
de suite.
Alors, pour l'instant, il y a des paliers. Donc ça, c'est Mnemos qui se charge de la communication et donc de dévoiler les paliers. De mémoire, sur la page Ulule, on va jusqu'à 70 000 pour l'instant. Et donc, ensuite, bah, voilà, une fois qu'on va avoir franchi le palier des 70 000, il y aura des choses qui vont se débloquer. Et on espère qu'on va être contraint d'inventer de nouveaux paliers parce que, bon, voilà, c'est un projet, on peut toujours rajouter des choses... on peut toujours rajouter des, voilà, des éléments qui peuvent rendre.
Ah, bah, ça y est. Ils ont mis le palier à 75 000, le palier Salem. Oh. Donc, ils pourront publier la correspondance en trois volumes reliés, permettant une meilleure prise en main de chaque ouvrage et un espacement plus agréable en termes de mise en page.
Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, plus on avance, évidemment, plus on a un projet complet. Donc, voilà. Et c'est un. Bon, bah, du coup, c'est vrai que c'est un projet où on essaie de, bah, voilà, d'alerter un maximum de monde, que les gens relayent l'info, parce que bah, c'est un projet clairement de niche, qui, pense-t-on, est véritablement intéressant dans tous ses aspects, et que plus on sera nombreux, plus il y aura de souscripteurs, plus les gens recevront un nombre de bouquins conséquents, enrichis, etc. Donc voilà, c'est vraiment... on est bien parti, donc on est content. On s'approche des 50 000 là ce soir. C'est agréable en 24 heures. Mais on est encore très loin.
Peut-être pas la couverture en pause, non.
Ça dépend. Ça peut se négocier.
En pot de quoi?
Oui.
C'est ça, voilà. C'est la question.
Et j'ai vu passer une illustration de Cthulhu. Est-ce qu'il est prévu des illustrations originales à un moment? Parce qu'on a parlé de l'iconographie tout à l'heure, des cartes postales, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez en parler.
On peut en parler, puisque comme on l'a expliqué un peu plus tôt, l'idée que David et moi nous avons, c'est vraiment de nous plonger dans les années 30. Donc, on veut rester dans les années 30. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de travail moderne qui sera effectué par un artiste moderne. C'est vraiment, si on utilise une iconographie, au contraire, on va essayer de se replonger dans les années 30.
On sera dans le jeu.
On va essayer de livrer une expérience d'immersion totale dans l'univers Providence Cross Plains.
Ok. Je vais vous montrer quelques visuels pendant que vous parlez. Hop.
Non, si on peut montrer des cartes, des photos de bâtiments, des photos de gens.
On voit le WeF Tales décembre 32 sur la gauche, qui est donc la première apparition de Conan.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a?
C'est joli.
Voilà.
À droite, on dirait, ça c'est le octobre 33. Ah, vous voulez que je vous les montre en vrai? Je les ai à côté, là. C'est mes exemplaires, en fait.
Ah, oui, carrément.
Laissez-moi deux secondes.
Ah, oui, je veux bien, moi.
Oui, pareil. Donc là, les visuels, on remercie Frédéric Veil, de Mnemos, qui nous a envoyé tout ça. C'est assez incroyable.
Ah, c'est chouette, au niveau de l'iconographie, ouais, c'est.
Ah, ouais, c'est. J'allais dire, sinon, David, toi qui connais François Barranger, au pire, il y a un palier pour qu'il fasse quelques illustrations.
Bon, je vais faire de mon mieux.
c'est pas l'idée, justement.
Ben ouais.
Alors, j'essaie de. Je vois pas trop ce que je fais, donc.
Oui, on voit.
Je me vois pas. C'est possible de mettre en grand, parce que j'ai le relevé.
Ouais, là, c'est bien. Ouais.
Voilà, donc là, c'est le premier Conan. Décembre 32. Donc, avec une couverture d'Alan St. John qui illustre un sériol de Otis Klein, qui est assez moyen. Donc, voilà. Et ça, c'est la couverture la plus célèbre de Weird Tales. Numéro d'octobre 33, qui est extrêmement recherché, qui vaut d'ailleurs très, 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 très cher maintenant. Bon, je vois le prix que je l'ai payé et le prix qu'il vaut maintenant. Il est célèbre pour plein de choses. Il est célèbre pour la couverture de Brandedge, qui représente la Batwoman. Et ce qui est super dans ce numéro, c'est qu'il contient une nouvelle de Ward, une nouvelle de Lovecraft, une nouvelle de Clark Ashton Smith. Donc, du coup, elle est donc très recherchée par les collectionneurs.
Le trio.
Donc, voilà. Et ce truc a pris. Son prix a été multiplié par 10 en 3 ans. C'est assez fou.
Et là,
voilà.
Une petite question d'Alexis, justement. Est-ce que, à part les pays non anglo-saxons, donc à part la France, hein, du coup, est-ce que y a ces approches-là ailleurs, justement, Allemagne, Italie, Espagne, que sais-je encore, Japon, parce que je sais que Cthulhu, Lovecraft, le Japon, ils adorent. Hein.
Alors oui, effectivement, il y a un engouement populaire dans pas mal de pays, le Japon en particulier, que ce soit pour Howard ou pour Lovecraft. En revanche, l'intérêt universitaire, etc., il est vraiment... alors, pour Lovecraft, il y a des choses aux États-Unis. Pour Howard, il y a quasiment rien. En France, en revanche, de plus en plus. Je ne sais pas si on peut dire que ça dit quelque chose de la France, mais en tout cas, ça dit quelque chose de l'état de la critique américaine, la critique littéraire américaine qui depuis 5 ans part en sucette, pour employer, où on ne fait plus de critique littéraire. Hein, c'est uniquement de la critique sociale. Donc, du coup, qui n'a pour moi quasiment plus aucun intérêt. Les éditions de War, on les trouve maintenant, donc les Wandering Stars, celles que j'ai dirigées, donc sont maintenant aux États-Unis, elles sont en Espagne, en Allemagne, Italie, enfin, une dizaine de pays. Et j'ai toujours dit qu'il faut environ une vingtaine d'années avant que commence à émerger une critique, donc des critiques qui vont naître du fait qu'il y a une édition Princeps, une édition de référence. Et donc, c'est encore très récent. C'est arrivé aux États-Unis en 2001. Bon, en France, il y a eu différentes choses, mais on a un pays en particulier. Donc voilà, donc, bon, je pense que d'ici quelques années, ça va se mettre en place. Je laisse David parler pour Lovecraft parce que je suis moins au fait des choses.
Mais pour Lovecraft, ce que j'ai constaté, par exemple, alors déjà, on parlait de Barranger. Bon, Barranger, moi, j'ai vendu les livres, pas des illustrations dans plusieurs pays. Et puis sinon, je vois aussi en Pologne qu'il y a un gars qui a entrepris aussi de tout retraduire. Alors, il n'a pas fait le même appareil critique. Il n'y a pas tout l'appareil critique, tous les trucs, mais enfin, c'est une traduction aussi unifiée. Il y a quand même un intérêt pour cet auteur. Et en ce qui concerne l'intérêt universitaire, je peux pas parler pour les autres pays, mais pour la France, je reçois assez, enfin, régulièrement, tout dépend de ce qu'on entend par là, mais mettons, 5-6 fois par an, quand même, des messages de personnes travaillant, alors qui sur une thèse, qui sur un master, autour de Lovecraft.
Voilà. Ouais.
Il y a pas mal de choses.
Ouais. Oui, quand même. Enfin, je trouve que c'est pas si mal.
Ouais. Oui, on y arrive. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais c'est normal parce que je pense que c'est quand on découvre un auteur adolescent sans les espèces de, je sais pas, d'idées préconçues ou de hier qu'on peut avoir quand on est adulte, c'est des choses qu'on a aimées, qui nous ont donné du plaisir, qui ont pu nous aider aussi à avancer dans la vie. Bon, on a envie de partager ça ensuite avec d'autres par la suite, et quand on est en situation de le faire, que ce soit en tant que traducteur, en tant qu'éditeur, en tant que critique, en tant qu'universitaire, pourquoi s'en priver, hein?
Oui, je vais éviter de parler de John Brunner ce soir. Par exemple. Dans le genre écrivain qui marque. J'ai réussi à le placer. Du coup, ouais, donc pour revenir sur le financement.
Je ne peux pas s'en empêcher, c'est terrible.
Oui, je sais. Enfin, chacun ses péchés mignons, hein, que veux-tu. Il y avait une petite question quand même par rapport au travail de traduction qui vous attend. Est-ce que vous ressentez quand même une certaine pression, comme ça a été le cas pour les intégrales, soit chez Bragelon ou chez Demos, hein, du coup?
En ce qui me concerne, pas du tout. Au contraire, j'ai hâte de pouvoir me replonger dans le fait de retraduire Howard, parce que maintenant, depuis que l'intégrale Bragelonne s'est arrêtée il y a 7 ans maintenant, qu'on a fait 12 volumes, à part quelques rares trucs, ça fait longtemps que j'ai pas eu, et je prends un plaisir énorme à traduire Howard. Donc, je dirais que j'ai hâte de m'y replonger, au contraire.
Je dirais comme Patrice aujourd'hui, là, enfin aujourd'hui, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai quand même réfléchi un peu, notamment après l'expérience précédente. C'est pas que j'avais pas envie, hein, d'y replonger, parce qu'il y a un côté, il y a un côté justement comme le drogué qui retourne à sa substance. Mais le fait d'être avec Patrice, ça me, d'abord c'est Lovecraft, ensuite c'est Howard. C'est les années 30, c'est des choses qu'on connaît bien. Je sais que ça va me permettre de porter un nouveau regard sur tout ce que j'ai fait, donc d'améliorer encore toutes mes connaissances. Je suis sûr que je vais découvrir des trucs auxquels je n'ai même pas pensé là maintenant. Et le fait de retravailler avec Patrice, je veux dire, de toute façon, oui, quoi. Donc, voilà. Et après, il y a aussi... Non, mais on se connaît bien. Il y a un autre truc que je trouve aussi assez génial qui m'a manqué. Là, je vous disais, je termine 2 romans. Bah, je suis tout seul. Hein. Quand j'ai fait les Lovecraft, alors j'étais tout seul, ok, face au texte et tout ce qu'on veut, mais enfin, j'étais quand même très épaulé par la famille, par les amis, par mon éditeur, mais il y avait la communauté aussi. Et ça, le fait de pouvoir échanger avec les gens très... Ah, c'était en ce qui me concerne, absolument vital, extraordinaire. Ouais. Et ça, oui, ça fait plaisir quand même d'être accompagné dans un travail pareil. En plus, ce côté communautaire, je trouve, ça correspond bien à l'esprit de ce qu'on veut faire, partager la correspondance, comme ça. C'est des échanges.
On s'est beaucoup amusé sur le livre qu'on a traduit à quatre mains. Tu te rappelles quand je te glissais des petites erreurs ou des passages que je rajoutais qui n'étaient pas dans le texte original et il fallait que tu fasses attention.
Ouais, parce qu'on faisait un ping-pong, alors il fallait qu'il y avait des trucs cachés. Voilà.
À propos de ping-pong, une question, moi, c'est par rapport à la correspondance. Est-ce que vous traduisez chacun de votre côté les lettres ou bien il y a un échange un petit peu, un nouvel échange à nouveau, je traduis Lovecraft et après je te renvoie Ward, etc. Je sais
pas bon, on va se relire, de toute façon.
On va se relire, mais je traduis Ward et David traduit Lovecraft. Hein. Et mais à un moment, il va qu'on unifie des choses automatiquement parce que
si oui, voilà. Bah, évidemment, et de toute façon, ça sera ensemble. Donc, et c'est vrai, Patrice fait Howard, c'est normal, je fais Lovecraft, voilà. Mais après, on se relie, on bosse ensemble.
D'accord.
Ouais. L'idée, c'est vraiment qu'en fait, en ayant que chaque auteur ait son traducteur, ça va nous aider aussi à faire en sorte d'identifier clairement les deux voix.
Oui, c'est des styles différents.
C'est ça qui est. C'est pas autrement. Ça serait la même personne qui traduit. Ça serait. Donc, il y aura quelque part une forme de voix unique. Là, avec deux traducteurs, chacun ayant la charge d'un auteur, on va arriver, j'espère en tout cas, à garder ce côté je parle d'une voix, il parle d'une autre voix.
Oui, oui. Alors, justement, la question d'Olive là est intéressante. Ouais. Alors, en ce qui concerne non, pourquoi ? Parce que je n'avais lu que des extraits. En fait, il y a des extraits que j'ai traduits déjà pour l'intégrale. J'ai pas lu tout, j'ai pas traduit tout. Donc, la réponse est globalement non. En fait. Mais il y a un truc qui m'a énormément servi pour ma traduction, qui est mon document que j'appelle les mots de Lovecraft, c'est-à-dire où j'ai noté les 2500 mots là, avec les références, les traductions possibles, etc. C'est vrai que je vais me resservir de ce document pour traduire la correspondance.
Oui, en ce qui me concerne, ça m'a aidé en partie donc, pour certaines thématiques. Lorsqu'il y avait certaines thématiques qui étaient développées dans la correspondance, j'arrivais assez facilement à les identifier. Sur l'exemple que je donnais hier, qui était celui de lorsque Howard écrit les pigeons de l'enfer, c'est la nouvelle, c'est au-delà de sa dimension horrifique, c'est clairement une pique qui est envoyée à Lovecraft, très clairement. Et donc du coup, ça m'a permis de ne pas commettre de faux pas lorsqu'il était question de traduire les chapitres de la nouvelle. Puisque il y a un chapitre, c'était en anglais, c'est The Whistler in the Dark, donc celui qui sifflait dans les ténèbres. Ouais. Donc on voit tout de suite à qui il est fait référence. Il y a l'appel de la Zuvembi. Donc alors évidemment, il a fallu. Alors je ne sais plus exactement le titre de tous les chapitres. Je me rappelle de ces deux-là, mais il est évident que dans ma traduction française, je me suis arrangé pour faire en sorte que le titre de chapitre fasse écho à une nouvelle de Lovecraft, puisque c'était évidemment l'intention, cachée certes, mais l'intention de Howard.
Alors juste un petit rappel des paliers, puisque là on va arriver aux 50 000, on est déjà à 49 000. Donc 50 000, ce sera toutes les pages intérieures de la correspondance en bicromie. À 60, on aura les deux ouvrages déjà de base qui seront cartonnés. À 65, on rajoute des correspondances en plus. À 70, on obtient les versions PDF et e-pub en plus. Ça, c'est toujours bien. Hein, pour ceux qui ont les liseuses qui se déplacent. Et à 75, donc le plus important, c'est là, on passe aux trois volumes.
À 70.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Okay. C'était juste un petit rappel vite fait.
Non, mais oui, mais de toute façon, il faut le rappeler quand même. De toute façon, on espère que ça va monter encore en cours de soirée.
Oui.
Il y en a ici qui risquent de pledger hein, dans la soirée.
Envoyez les sous, beaucoup.
Oui. Voilà, YouTube Monnaie.
Ah oui, voilà, quand même. Hein. Ah oui. Bah, du coup, on parlait de. Oui, bah, vous, on parlait de l'intérêt de la correspondance. Bah, du coup, la lire, ça va permettre, déjà, on en a parlé, d'expliciter un petit peu, d'écrire mieux l'ambiance, la vie des années 30 aux États-Unis, qui, on va dire, est surtout connue des rôlistes. Hein, on ne va pas le cacher parce que. L'appel de Cthulhu en jeu de rôle, on en a poncé, hein, on s'est renseigné à fond sur cette époque. Ouais, mais pour ceux qui ne le sont pas, bah, c'est une autre façon de le découvrir. Mais du coup, cette correspondance, ça va aussi nous permettre de mieux comprendre, j'imagine, bah, déjà les deux auteurs, hein, parce que quand même, ils vont se parler, hein, c'est le but. Du coup, est-ce que ça va aussi nous aider à mieux appréhender, on va dire, l'œuvre de chacun de leur côté, comprendre voilà, les thèmes et ce qui les a poussés à écrire des monuments pareils au final?
En partie, oui, en partie, non. Là, je parle toujours au nom de Howard. Il faut énormément se méfier de l'être de Howard, parfois des libertés qu'il prend avec la véracité des choses. Il peut exagérer, il peut faire pas mal de choses. Donc, c'est un éclairage. Mais ça va pas plus loin qu'un éclairage qu'il faut parfois prendre avec des pincettes parce que bah, c'est Howard, hein, donc il peut exagérer les choses, les inventer, ou alors il peut les déplacer parce qu'il veut convaincre Lovecraft d'un point. J'ai un exemple très précis en tête qui est super important. C'est un fait divers qui se produit en Californie, mais pour les besoins de son argumentation, il lui dit que ça se passe au Texas. Donc, il y a des choses comme ça, il faut vraiment faire très attention. On ne peut pas prendre les lettres et ce qu'on lit au pied levé, au pied de la lettre, si je puis dire, hein, puisqu'on parle de correspondance. Et je pense que c'est comme, en fait, il faut lire ça parfois comme une nouvelle. En ce sens, il y a des fois, il va être très réaliste, des fois, il va partir dans des envolées. L'exemple qu'on cite sans arrêt, mais il est quand même très drôlatique, c'est lorsque le Howard se retrouve contraint sur la fin de sa vie à devoir écrire des nouvelles érotiques pour récupérer de l'argent vite et facilement. Donc, il en parle à Lovecraft, il lui dit bah, « Vous avez qu'à faire comme moi, hein, c'est pas simple. Hein. Vous prenez vos aventures sexuelles, vous changez les noms, et hop, ça fait une histoire. » Donc, on imagine à la fois Howard qui raconte ses aventures sexuelles déguisées, et on imagine Lovecraft qui reçoit et qui lit la lettre en disant bah, « Vous avez qu'à écrire, monsieur Lovecraft, vos histoires sexuelles, et vous pourrez vendre des nouvelles. » C'est juste exceptionnel.
Ouais, moi, je suis assez impatient en fait de toutes les découvertes que je vais pouvoir faire à travers cette correspondance qui vont me permettre de revenir encore sur les nouvelles que je viens de traduire. Et si vous voulez, alors à propos de l'argent et des nouvelles sexuelles, vous voulez que je vous raconte une anecdote à propos de Robert Silver.
Sexuellement, merci.
Non mais littéraire, je pense qu'ici
on est plus intéressé. Ah, littéraire, ça va. Sinon, de toute façon, on aura des soucis avec YouTube, mais on verra ça plus tard.
Non, mais je dis ça parce que je crois que c'est le premier auteur de SF que j'avais interviewé. Ça devait être en 98. Non, c'est pas le premier. Mais bon, enfin, dans d'autres fonctions, c'est le premier auteur que j'avais interviewé. Et puis, on demandait comme ça, et comment en êtes-vous arrivé à écrire de la SF et tout ça. Et Silverberg explique, mais vous comprenez, en fait, j'avais 20 ans, j'étais millionnaire. Comment ça? Oui, j'écrivais à peu près un roman par semaine pornographique que je vendais. C'était très facile pour moi. J'avais énormément d'argent. Et donc, n'ayant plus de problème d'argent, je me suis dit, mais finalement, j'ai pas de problème d'argent. J'écris. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Qu'est-ce que j'aime lire? De la SF. Je vais écrire de la SF. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Il avait fait fortune en écrivant des romans porno. Ça ouvre des perspectives.
C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens souscrivent au projet. Sinon, David va découvrir des romans pornographiques. Et...
ouais, d'ailleurs, ce qu'il n'a pas déjà fait.
Oui.
Tout pseudo. Hein, on rappelle d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la collection Jimmy Dieu présente, qu'il y a des gens, par exemple, comme Roland Wagner, qui ont écrit sous pseudo.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Bon. Ce cher Roland avait écrit là.
Et oui. Je ne sais pas si je n'ai pas encore l'exemplaire qui traîne quelque part ici, d'ailleurs.
C'est le cas de beaucoup. Hein. Karl Wagner, auteur de Ken, a aussi écrit des romans porno sous pseudo. Hein.
Ouais. Il y en a beaucoup qui écrivent dans les collections Harlequin et autres, hein, qui ne le disent pas, mais ça y va, quoi. Ou les SAS, il y a pas mal aussi de trucs sous pseudo.
Ouais, ou des Brigades Mondaines, des trucs comme ça. Mmh. Ouais, 1617. Ouais. Moi, j'écris sous pseudo, mais c'est plus dans JDR Mag. Hein.
D'accord. vas-y, Guillaume.
Ouais, une question, on va peut-être quitter le porno et l'érotisme, mais... On peut en parler, c'est comme vous voulez.
C'est là que tu auras ta meilleure audience. Hein.
On va se lancer là-dedans. J'ai le sujet pour le prochain campus miscatonique. Alors.
Voilà.
L'idée, c'est de voir un petit peu. Bon, on parle de la correspondance.
Voilà, t'as même le nom, le campus miscatonique. Et c'est parfait.
Ok, oui, bon, magnifique. Je le déposer ça va, suite, ça va faire un clip sur YouTube, vous allez voir.
Non, mais attendez, juste un truc à propos du porno et autres. Moi, je vous invite, là, puisqu'on connaît Lovecraft et tout ça. Relisez Le Monstre sur le Seuil. franchement, relisez Le Monstre sur le Seuil. Non, mais j'ai jamais vu. C'est d'une perversion incroyable, ce truc. Sexuel, hein, je veux dire. Non, mais relisez Le Monstre sur le Seuil. Non, mais le Monstre sur le Seuil.
Je ne sais pas si on apprend plus de choses sur le sexe ou sur toi, David, là.
Ouais. Ça va ensemble. Non,
ouais. Ouais, je ne sais pas,
Guillaume. J'essaie de reprendre le fil, pas facile. Hein. Ma question, en fait, l'idée, c'est par rapport à cette correspondance. Bah, comment est-ce qu'elle a commencé, en fait ? Qui a envoyé la première lettre et c'était quoi le sujet ? Parce que ça, c'est bien. Alors, il y a eu bien un moment zéro, en fait, il y a la première lettre qui a été envoyée, quoi.
Ça, c'est quoi, moi ? Oui, d'accord, Vicky. Donc, juin 1930, Weird Tales réédite. Donc, Weird Tales paraissait tous les mois. Et tous les mois, il y avait une nouvelle qui était rééditée dans la revue, une nouvelle tirée des premières années de Weird Tales. Et en juin 1930, la nouvelle Les Rats dans les Murs, qui est rééditée, que Ward n'avait jamais lue. Donc, est-ce qu'il n'avait pas tous les premiers numéros ? Il lit cette nouvelle et puis à la fin, il y a un passage où le personnage s'exclame brutalement en gaélique. On ne sait pas d'où ça vient ou pourquoi. En fait, Lovecraft avait simplement piqué des paragraphes d'un bouquin de Fiona MacLeod qui s'appelle The Seed Eater, je ne sais pas si c'est traduit en français, ça. Et puis, il avait dit, personne ne se rendra compte que j'ai piqué ça à quelqu'un d'autre. Mais Howard lit la nouvelle, il se dit, mais c'est étonnant parce que ça voudrait dire que Monsieur Lovecraft, apparemment, fait partie de ces gens qui sont convaincus de la précédence gaélique et non britannique à tel endroit des îles britanniques. Et donc, du coup, il se sert de ce prétexte-là pour envoyer une lettre à Weird Tales. Et donc, cher Monsieur Wright, donc, qui était le directeur de publication de Weird Tales, et voilà, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Les Rats dans les Murs, et je m'étonne sur, à la fin, le gaélique, le britannique, il rentre dans des détails hyper pointus sur la civilisation et la linguistique celtique. Donc, cette première lettre, entre parenthèses, sera inclue dans notre intégrale, parce qu'elle est importante. Et donc, il envoie la lettre à Weird Tales. On imagine la réaction de Wright, il voit ça, il ne sait absolument pas quoi répondre, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, il envoie la lettre à Lovecraft. Il dit, ben voilà, j'ai reçu ça de quelqu'un. Et du coup, Lovecraft envoie sa première lettre à Howard le même mois, en juin 1930.
Ok. Et du coup, donc, ça, la première thématique, bon, il y a le sexe, on ne sait pas trop. Il y a donc la linguistique. Est-ce qu'il y a des
grands... Le sexe, je ne sais pas. Sur les rats, il faut interroger Freud. Il aurait certainement des choses à dire.
Oui. Est-ce qu'il y a des grandes thématiques que vous pourriez évoquer par rapport à leur
leur relation.
On va choisir les mots parce qu'après
on va essayer d'être sobre de bon goût. Voilà. Au début, c'est beaucoup sur la civilisation celtique. Les premières lettres, c'est vraiment la civilisation celtique. Progressivement, ça va commencer à déborder sur l'histoire, sur un plan plus général, la littérature fantastique, les légendes, le folklore. À partir de 1931, il commence à bouger sur l'histoire de l'Ouest, les problèmes d'immigration aux États-Unis. Et à partir de 32-33, là, commencent les grands débats. Donc, les grands débats, c'est des débats qui peuvent durer 2 ans. Alors, sur les lettres, des fois 15 pages, 20 pages. Et là, je parle de pages dactylographiées, simple espace. Hein, c'est vraiment du même out à chaque fois. Et donc là, le grand débat de 1932-33, c'est intellect contre physique. Et là, qui va les occuper pendant une année et demie, facilement. Ensuite, il y a les voyages qui prennent beaucoup d'importance, le climat, l'histoire, la politique. Enfin, après, ça part vraiment dans tous les sens. Et le point de départ, véritable, l'Ouest américain, la police et les violences policières. On voit Howard qui, autant Lovecraft est en faveur d'une société policée dans laquelle la loi et l'ordre règnent, et Howard dit non, mais les flics qui sont là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tabasser les gens qui manifestent, ou ils vont tabasser les gens qui ne sont juste parce qu'ils sont pauvres, ils sont au service du pouvoir. Enfin, de ce côté-là, je trouve que Howard est tellement moderne, c'est tellement moderne. Voilà, donc du coup, ça part vraiment dans tous les sens, ça. Alors qu'au départ, il parlait simplement de l'utilisation du britonique ou du gaélique dans une nouvelle, sujet passionnant qui va intéresser environ 12 personnes sur cette planète. Attends, ouais.
Et est-ce qu'il se donnait des conseils littéraires, des conseils d'écriture ?
Bah, à part celui dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la nouvelle érotique, etc. En fait, Lovecraft se désolait du fait que Howard n'écrive pas de récits surnaturels.
Ouais.
Mmh. Il a jamais compris et accepté le fait qu'en fait, Howard, après sa période d'imitation qui a duré 6 mois où il faisait du Lovecraft, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa voix. Il est reparti écrire ses propres nouvelles. Et Lovecraft s'est toujours lamenté du fait que Howard n'écrivait pas du Lovecraft, alors que bah, il en avait pas envie, c'était pas du tout son truc, au contraire. Au contraire.
Ok.
Bien.
Je crois que David ne dit plus rien.
Oui. Il est figé. Non, hein, non.
Alors, oui, il est là.
Il est toujours là.
J'ai une autre question du coup. Ouais, l'idée, ben, on parle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un lecteur amateur de Lovecraft ou de Howard, mais qui connaît juste les romans, mais qu'est-ce qui serait intéressant? Comment on pourrait le convaincre de s'intéresser à la correspondance des deux auteurs en fait? Ça a déjà été un petit peu évoqué précédemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Voilà, qu'est-ce que ça pourrait apporter au final
pour quelqu'un? David.
Généralement, on arrive à la lecture de la correspondance d'un auteur après avoir lu une bonne partie des nouvelles, ça peut être des essais aussi, enfin des textes principaux pour lesquels l'auteur est connu. Hein. C'est le côté coulisses. Pareil, à titre personnel, il y a un truc qui me frappe beaucoup, c'est que je suis à la fois réfractaire c'est-à-dire je considère que la correspondance d'un auteur, c'est quelque chose de privé qui n'a pas forcément vocation à être partagé avec le public, qui ne regarde pas. Je sais dans un cas très précis, c'est le truc que je ne regarderai pas, ça ne me regarde pas. Et en même temps, je me rends compte que moi, en tant que lecteur, là je parle du David lecteur, par exemple, je pense à Balzac, qui est un des premiers auteurs dont j'ai lu la correspondance, parce que j'adorais Balzac, j'adore toujours Balzac. Et je me suis régalé à en savoir plus sur cet auteur, sur ses voyages, et la manière, en fait, parce que, pareil, je pense que Patrice travaille comme moi, on ne traduit pas des livres, on traduit des auteurs. Et traduire un auteur, à un moment donné, c'est traduire potentiellement tout, c'est traduire une œuvre. Et une œuvre, c'est pareil, moi j'ai toujours dit, en tant que lecteur, je ne lis pas des livres, je lis une œuvre, probablement comme toi, Fred Heilbronner. Et donc, c'est tout, entre autres, oui. Mais on veut savoir tout, on ne peut pas séparer l'œuvre de l'histoire, et à la fois de l'histoire personnelle de l'auteur, et de l'histoire avec un grand H, plus large. Donc ça, la correspondance, ça permet vraiment justement d'en prendre connaissance, et de tirer, c'est quoi le but? C'est pas la connaissance pour la connaissance, à un moment donné, c'est aussi la connaissance pour le plaisir, pour jouir plus, parce qu'on voit mille et un détails, c'est ça qui est complètement fou. Mais je dirais, c'est vrai quand même, il faut reconnaître, c'est plutôt dans un second temps.
Ok.
C'est un côté multiplicateur de plaisir. Et c'est comme ça que je le vois. De plaisir et de connaissance. Et la connaissance pour le plaisir. Alors, pardon d'insister sur la notion de plaisir. C'est quand même le but.
Non, mais... On parle de jouissance il y a 2 minutes. Donc, c'est le but. Je partage complètement ton analyse. Hein. Pour moi, la correspondance, c'est surtout quelque chose qui va me donner envie de me replonger dans la fiction.
Ouais, de revenir, de relire, de remettre les choses ensemble, le puzzle.
Mais oui, mais tout le temps, parce que c'est une sorte de brassage comme ça. Moi, je suis impatient. Patrice parlait tout à l'heure d'impatience. Je veux dire, j'ai la même impatience, la même curiosité. De toute façon, je sais très bien qu'un texte, on croit le connaître. Ça m'est arrivé avec le Lovecraft. Je veux dire, combien de fois j'avais lu, je sais pas, Les Montagnes ou d'autres avant de les retraduire et de m'apercevoir qu'en fait, merde. Pardon, je veux dire, mais en fait, non, je n'avais pas lu, je n'avais pas saisi. Et ça, vraiment, l'effort de traducteur, c'est d'abord, je crois, enfin d'abord, ou aussi vraiment un effort de lecteur. Et la lecture, elle s'enrichit de tout ce qu'on peut trouver. Donc, je veux, étant aussi, très, très avide de lecture, moi, je suis un gros relecteur, en fait. C'est-à-dire, je lis beaucoup, je crois. Mm-hmm. J'adore relire. Je peux relire 5, 10 fois, 15 fois un texte. J'ai un bonheur absolu. Et je sais que enrichir cette relecture à travers la connaissance de la correspondance, c'est absolument génial. Je ne vais pas m'en priver. Et si en plus, après, je peux le partager avec d'autres en faisant encore une nouvelle édition plus enrichie, plus argumentée, plus tout ce qu'on veut, je veux dire, pas se priver.
Pour ceux qui connaissent, moi je sais que j'adore Philippe K. Dick, clairement, je pense qu'il est un des plus grands auteurs du XXe siècle.
Ah ben c'est évident.
Et on a un appareil critique, des interviews, des choses qui permettent de donner un éclairage à toutes ces œuvres. Et clairement, à chaque fois qu'on est dedans, c'est comme tu dis, ça permet de...
C'est phénoménal.
Remettre à nouveau dedans, quoi.
Il faut bien comprendre une chose. Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais moi, je vous le dis comme je le pense. L'écriture change le monde. l'écriture change le réel. Il y a des auteurs qui changent le réel. Dick, clairement. Tolkien, clairement. Lovecraft, clairement. Howard. Donc, à un moment donné, prendre connaissance de la manière dont tout ça s'opère. Mais vraiment, et pour Dick, là, tu parles de Dick. Pardon, je regarde par là parce que chez moi, il est rangé là-bas. Mais. C'est complètement inouï. Le monde n'est plus le même. Il y a des auteurs comme ça. On pourrait mettre Proust hein, là-dedans, Balzac ou quelques autres auteurs, pas forcément des littératures de l'imaginaire d'ailleurs, mais aussi le monde n'est plus le même après qu'on les a lus.
Moi, je sais que c'était Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Je ne sais pas pour vous ce que c'est, mais celui-là, j'avais 17 ans quand je l'ai lu. Comme tu dis, ça transforme complètement.
Oui, il y a des livres qui transforment.
Ouais, ouais. Je ne sais pas pour vous, tiens, du coup.
Et là, je dis pas seulement soi. Hein. Quand je dis des livres transforment, je n'ai pas dit nous transforme,
bien sûr.
Mais transforme le monde, agissent sur le réel. Hein. Ouais. Le monde n'est plus le même après.
Attendez, d'accord. On a déjà ne serait-ce que le texte de base, on va dire la Bible, hein, quand c'est imprimé par Gutenberg, ça a donné 2-3 petits trucs derrière, quoi.
On est des créatures de fiction, qu'on le veuille ou non.
Alors, il y avait un petit truc, ouais, j'ai une question. Je ne sais plus si on en a parlé. Il y avait le journal d'une traduction impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de cet ordre-là pour le journal d'une traduction peut-être possible, impossible. Ouais. Peut-être via des forums, je ne sais pas. Des anecdotes. Enfin, tu racontes l'anecdote de la
petite. Il y en aura sans doute, hein.
Bon, il faudrait que je raconte l'anecdote de la petite fille, mais...
on n'a pas oublié, ouais.
Non, mais sans doute, c'est-à-dire que de toute façon, j'écris, j'allais dire... c'est-à-dire que de toute façon, j'écris. Après, c'est vrai que la forme de ce que j'écris varie en fonction des attentes qui sont faites, qui sont là. S'il y a un journal, je trouverais ça génial, parce que j'aimerais bien raconter ne serait-ce que la suite. C'est-à-dire que le journal de la traduction impossible, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est dans le tome 7, où d'ailleurs Patrice, il y a un article de lui. Donc le tome 7 de l'intégrale, c'est autour de Lovecraft, il y a toutes sortes de choses, et ouvrant ce tome 7, il y a mon journal de traduction qui raconte un peu les coulisses donc, de ce chantier qui démarre en 2010, en fait, quand je commence à retraduire Lovecraft. Et qui se termine en gros en 2021 quand les livres sont envoyés aux souscripteurs, même si ça a continué là jusqu'en mars parce que j'ai continué à retravailler dessus. Oui, pour répondre à ta question, Alexis, je crains que tu n'aies vu juste. Mais
je vais la mettre après.
Ouais, bon, enfin, je ne sais pas s'il faut dire hélas ou pas, mais bon, il a compris. Et donc ce journal était génial, mais il se termine au moment où je le termine par défaut. Hein. Donc en juillet 2021, il s'est passé des tas de trucs encore après. Des trucs de dingue, notamment la conséquence de la sortie des livres sur moi. J'ai jamais vécu un truc pareil. Et oui, j'aimerais bien poursuivre ça, ne serait-ce que pour pouvoir raconter la rencontre entre ces deux hommes. Parce que c'est évident qu'il va se passer des trucs de fou. C'est sûr. C'est évident. Quand je dis ça change le réel, il va se passer des trucs. Et je voudrais écrire là-dessus, le raconter.
On attend ça avec impatience.
Au niveau des échanges, justement, des lettres, de ce que vous avez déjà pu lire avant d'entamer les trades, est-ce qu'ils se sont influencés l'un à l'autre, justement ? Parce que c'est vrai que c'est une question que je suis partie de ceux qui se la posent, de voir comment ça a pu influencer leurs différentes œuvres. Est-ce que ça, vous l'avez déjà vu ?
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'influence de la part de Howard sur Lovecraft, pour la bonne raison, c'est que Lovecraft n'écrivait quasiment plus grand-chose à partir de 1929. Il a
sa production Bon, tu 31,
ça s'est arrêté.
Non, mais quand même, il écrivait moins, mais tu as des textes plus longs aussi. Enfin,
ouais, il y a quelques textes, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais
non, dans les années 30, chez Lovecraft, années 30, moins.
Oui, c'est ce que je dis. Et donc, du coup, on a par exemple, dans The Shadow Out of Time, il y a des références à Ward avec Chromia et je ne sais plus quoi, les Cimériens. Ce n'est pas de l'influence, c'est un petit clin d'œil.
Ouais. C'est un gimmick.
Sur Howard, oui, au début, lorsque Howard rentre en correspondance avec Lovecraft, il est très clairement influencé par Lovecraft, il est même intimidé par Lovecraft, il va se mettre du récit Lovecraftien, et il va rapidement se rendre compte que c'est pas sa voix, et donc du coup, il va reprendre sa voix, et il va faire ce que Lovecraft a connu plus tard dans le Phénix sur l'épée, la première nouvelle de Conan, où il y a une référence comme ça entre deux lignes à Cthulhu. ou les grands anciens. Et c'est juste mentionné et on n'y pense plus. Voilà, de là à dire qu'il y a une influence de l'écriture de l'un sur l'autre, non. En revanche, il y a une véritable influence des débats qu'ils vont avoir sur l'écriture de nouvelles de Howard. Tout à l'heure, j'ai mentionné Les Pigeons de l'Enfer, qui est très clairement une épique adressée à Lovecraft à la suite de leurs échanges sur la Nouvelle-Angleterre et le climat d'horreur qui est le plus propice en Nouvelle-Angleterre. Il y a aussi tout le débat dont je parlais tout à l'heure aussi sur intellect et physique, qui va donner naissance à un roman avorté qui est Almuric, qui est, je crois, dans le dernier bouquin que je vais paraître chez Bragelonne, qui est un roman qui est inachevé, qui est pour moi c'est une horreur, je déteste ce texte. Alors, il a ses fans, mais c'est un truc inachevé, mais qui est très clairement le produit de la discussion et des échanges que Howard a avec Lovecraft sur les mérites respectifs de l'intellect et du physique. Donc, en ce sens, oui, on peut dire qu'il y a influence, mais ce n'est pas une influence d'un écrit de la fiction sur la fiction d'un autre, c'est beaucoup plus leurs échanges épistolaires qu'on va retrouver sous une forme déguisée dans la fiction de l'angle.
Ils ont leurs œuvres respectives, ils ont leur univers. Après, il peut y avoir des jeux littéraires. Hein. Lovecraft, il y a des clins d'œil avec d'autres auteurs, comme avec Bloch, etc. Mais ils ont leur univers. C'est aussi la question de savoir pourquoi on écrit. C'est pas forcément pour. Enfin, on pourrait, mais c'est pas forcément pour ressembler à un autre, etc.
Et ça a influé du coup sur Lovecraft, parce que comme tu dis, il écrivait déjà beaucoup
moins. Il a son univers. Il écrit moins, mais c'est pas comme s'il n'avait pas écrit avant non plus.
D'accord.
C'est quelqu'un qui, bon, d'abord l'œuvre de Lovecraft. Enfin, il revient aux nouvelles. Enfin, c'est 1915, 1921. Enfin, je vais pas faire toutes les dates. Ou 1905. Il commence très tôt, mais en fait, les nouvelles chez Lovecraft, c'est relativement tard dans sa vie. Hein. C'est, je crois, que Dagon de mémoire, c'est 21. La publication, c'est 23. Comme il est né, tu vois, en 90. Et puis il y a cette grande année qui est 1926, puis 1927. Suite au retour à Providence après le départ de New York, mais il a son œuvre, c'est-à-dire que Lovecraft il n'a pas attendu Howard pour écrire et Howard il n'a pas attendu Lovecraft pour écrire non plus. Et encore une fois, les raisons pour lesquelles un auteur écrit, c'est à cause des démons qui sont là, hein. C'est ce qui le pousse à écrire lui, c'est pas Howard pour Lovecraft et c'est pas Lovecraft pour Howard, c'est leurs démons à eux.
Ce qui est assez intéressant, ce qui ne rentre pas dans le cadre des influences, c'est qu'en fait, ces deux auteurs se respectaient avant de rentrer en correspondance. On a une lettre de Howard qui est parue dans Weird Tales et une autre qui n'a pas été envoyée ou publiée, dans laquelle, juste après l'apparition de l'Appel de Cthulhu, il dit « mais c'est extraordinaire, je suis convaincu, suite à cette nouvelle, que M. Lovecraft va rester dans l'histoire de la littérature ». Donc, dès le départ, Howard, il perçoit qu'il a en face de lui là, un auteur marquant. Et pareil, Lovecraft devait expliquer des années plus tard qu'il se rappelait avoir découvert Howard en lisant Wolf's Head. Donc, c'est en avril 1926. C'est vraiment au tout début de la carrière de Howard. C'est une troisième ou quatrième nouvelle que Howard fait paraître dans Weird Tales. Et là, voilà, il se rappelle avoir lu cette nouvelle. Donc, très rapidement, ils sont remarqués l'un l'autre.
Mais on identifie très vite hein, les auteurs. Et c'est pareil, il ne faut pas oublier. Lovecraft est un lecteur aussi. En 1926, il achève l'écriture des épouvantes et surnaturelles en littérature. Donc, c'est un peu, vous savez, la sorte de synthèse. Enfin, il revient sur toutes ses lectures. Mosbier, Sepault, McKen, Dunsany. Bon, je ne vais pas faire la liste. C'est un lecteur, donc à partir de ce moment-là où il a cette espèce de culture-là, de sensibilité-là, d'éducation-là, on les repère aussi parmi les contemporains. Le ton, ce qui fait qu'un auteur est nouveau, ce qui fait qu'il est moderne et pas seulement une copie de ceux qui l'ont précédé ou de ceux qui sont ses contemporains, on identifie tout de suite.
Très vite.
Donc c'est normal qu'il se soit vu.
Pour répondre à la question de Liv, c'est justement le fait qu'ils étaient si différents. C'est ça qui était intéressant. Si on est en face de nous quelqu'un qui est notre copie conforme, très rapidement les débats vont tourner en rond et il n'y aura pas de débat. Là justement, c'était le fait qu'il y ait tellement de choses qui les différenciaient, qui permettaient de nourrir un véritable débat. Et donc ils étaient unis par certains points communs, qu'ils pouvaient avoir, hein, bah, parce qu'ils partageaient un marché commun, parce qu'ils partageaient des choses, des certaines conditions, mais d'une manière générale, ils étaient à l'opposé, aux antipodes l'un de l'autre. Hein. Et c'est ça, justement, qui rend la correspondance fascinante, parce qu'on a deux individus qui sont en train de s'affronter sur des débats d'idées extrêmement enrichissants et extrêmement intéressants.
Ok, bah écoute, ça donne. Ouais, c'est comme tu dis, hein, ça donne envie de voir un petit peu comment ils confrontaient leurs idées, leurs points de vue et autres, voir comment tout ça s'articule, quoi. Pour donner, comme tu dis, un autre éclairage sur ce qu'ils ont écrit ensuite, quoi. Ou avant.
Ou avant, oui. Ouais.
Ouais, c'est-à-dire qu'après, après, il meurt. Hein.
Donc... Bah oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'il meurt assez jeune, tous les deux, en fait, hein, même très jeune. Hein.
Mais surtout
quand avoir 30 ans et Lovecraft, ouais. 47.
46.
Il est mort en
mars. Il meurt en mars. Il est né en août.
Ah, c'est vrai que... ah, c'est très jeune pour les deux.
Ouais.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Bah, je n'ai pas d'autres questions pour ma part.
Guillaume,
t'en as ?
Moi, j'ai épuisé mon stock. Non, puis il y a pas mal de choses qu'on t'a déjà évoquées dès le départ sans qu'on pose des questions. C'est toujours passionnant d'écouter David et Patrice, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Non, mais moi, je peux raconter l'histoire.
Mais il faut l'anecdote. Hein.
Non, mais à propos du rêve, parce que ouais. ça revient à ça, ah, finalement, le rêve, l'impossible, etc. Donc, comme vous avez compris, moi, j'ai plutôt travaillé beaucoup dans l'imaginaire, que ce soit la SF, l'édition, le métier d'agent, le métier de prof, d'autres choses. Traducteur, auteur, tout ce qu'on veut. Et puis, je suis à Providence pour traduire, travailler et aller voir les archives et marcher dans la ville autour de Lovecraft. Bon, très bien. Et je dois quitter Providence pour aller en car à Indianapolis, où je me rends à la Gen Con, qui est la grande mecque du jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, j'y vais en car, pourquoi ? Parce que c'est une année où je prends beaucoup l'avion. Et ça, l'avion, si vous voulez, bon, tous les aéroports, c'est un peu les mêmes. Les avions, globalement, c'est un peu les mêmes. Le ciel, c'est toujours un peu pareil. Moi, je n'ai pas une passion folle pour les États-Unis. C'est un pays qui me met parfois mal à l'aise. Et je me dis, bon, tant qu'à y être, autant en profiter. Je vais prendre le car et je vais traverser plusieurs États. Voilà. Et je prends un Greyhound, je me dis, je vais faire un peu un voyage à la Lovecraft. C'est comme lui autrefois, ou comme il décrit dans Innsmouth, des choses comme ça. Je vais voyager un peu à la Lovecraft. Et puis, c'est compliqué, je vous passe des tas de détails, mais je me retrouve avec une petite fille à un moment donné à côté de moi, française en plus, et qui me dit, David, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Alors je lui dis, bah, tu vois, je suis en train de réaliser des rêves. C'est-à-dire que je rêvais de vivre au Canada, je vis au Canada, je rêvais de vivre aussi à Providence, j'ai vécu à Providence, je rêvais à la Gen Con, je vais à la Gen Con, je réalise des rêves. Et on parle comme ça, elle me dit, ah, très bien, et je lui dis, est-ce que toi, tu as des rêves? Elle me dit non, mais je lui dis, tu vois, moi j'ai une liste de rêves, des choses que je rêve de faire. Et je lui dis, si tu veux, on peut faire une liste pour toi, on envoie à ta maman, et puis comme ça, tu auras tes rêves plus tard. Elle me dit d'accord, puis elle me dit ses rêves. Et puis elle me dit, alors voilà, elle voudrait voir la Statue de la Liberté, elle voudrait aller à Washington, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, elle me dit, je voudrais être un cheval. Et je lui dis, mais tu sais... Alors, elle avait l'âge de mes filles. Et donc, je lui dis, mais tu sais, quand on a un rêve, peut-être c'est pas mal de rêver à quelque chose de réaliste. Comme ça, on peut le réaliser. Et puis après, on le raye. Et puis, on peut faire un autre rêve. Et puis, elle me regarde très sérieusement. Et elle me dit, David, tu manques d'imagination. Et là, tu manques d'imagination.
Oh.
Tu manques d'imagination. Et tout à coup, je me dis, oh là 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 là. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je lui dis, pardon. Je lui dis, tu as raison. Tu as vraiment raison. Je suis complètement confus. Je lui dis, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Je lui dis, tu as raison de faire ce rêve. Garde-le. Et tout ce que j'ai vécu par la suite, parce que c'est une période très particulière pour moi, la traduction de ces livres, le départ de la France, la démission, tous mes trucs d'avant, m'a montré qu'elle avait raison et qu'on peut être un cheval. Il faut rêver à ça. Et donc, c'est le rêve là, de la traduction, de la correspondance Howard Lovecraft, ça paraît fou. C'est fou, en fait. Ça paraît impossible. Oui, mais c'est ça. Il faut avoir de l'imagination et aller vers ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, ne nous mettons pas, nous, d'emblée, des bâtons dans les roues. Tentons l'aventure. On verra. Ça m'a marqué profondément.
C'est sûr que ouais, enfin, bon, pour nous, la Gen Con, pour l'instant, c'est un peu loin, mais qui, de toute façon, ça fera partie des. Un jour, peut-être. Hein. Voilà. Comme tu dis, il ne faut pas se mettre de barrière.
L'adaptation de Lovecraft au cinéma, compliquée, parce que.
Oui.
Si je peux me permettre de répondre, je pense que. Oui, la licorne. Mais bien sûr, la licorne. Mais. On se trompe souvent sur Lovecraft. On croit qu'on fait du Lovecraft parce qu'on emploie des mots comme Necronomicon, Cthulhu, Tentacule,
Azizopéa.
Voilà. Ouais, Indicible. Bon, c'est pas ça, en fait. C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière et c'est presque ce qui n'est pas écrit, ce qu'il y a entre les mots. Et je crois que pour le problème des adaptations visuelles, c'est que c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, on s'attache trop à ce qui est montré. Alors d'abord, souvent, Lovecraft nous explique que ce qui est montré est tel que, précisément, ça dépasse les capacités de nos sens. Donc par défaut, on ne peut pas le voir. Mais enfin, ouais, enfin, si on le voit sur la toile du cinéma, c'est que par défaut, c'est que c'est pas ça. Donc ça marche pas. Oui, mais en fait, même quand on s'attache à ça, c'est que c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, Lovecraft, moi, l'auteur que j'ai découvert quand je l'ai retraduit, au-delà de toute cette dimension, elle est là, elle est présente, hein, cosmique et horrifique. Il y a une sensibilité, il y a un rapport au monde, il y a un rapport aux autres qui est extrême, qui est d'une très grande générosité aussi, hein, qui est fait de délicatesse, qui est fait de choses comme ça, et d'une dimension ludique aussi. C'est pas quelqu'un qui se prenait nécessairement au sérieux. Hein. Et je crois que beaucoup d'adaptations, à la limite, on parle de trucs si compliqués, mais qui dit que les trucs de Stuart, je peux vous dire par exemple, vous allez me, je sais pas, me houspiller, quoi, mais les Stuart Gordon, les réanimateurs, étant donné ce que la nouvelle, enfin le feuilleton lui-même réanimateur est, c'est-à-dire en quelque sorte grotesque, bah, c'est réussi à sa manière.
C'est très réussi, c'est fabuleux, réanimateur.
Bah, c'est ça, je veux dire, c'est ça.
Bah, l'entre de la folie. Moi, je pense que c'est Lovecraft, c'est Carpenter, hein, The Thing et l'entre de la folie.
Quelque part, la meilleure adaptation, c'est qu'ils ne sont pas du Lovecraft, en fait. Hein. Ouais. Comme tu disais, David, c'est capter l'esprit. Quoi. Il y a des trucs comme The Mist ou The Thing, là, les grands classiques, mais finalement, ce n'est pas du Lovecraft. On sent qu'il est derrière, il ne rôde pas très très loin, mais ce n'est pas du Lovecraft directement. C'est vraiment l'état d'esprit, l'horreur cosmique. Quoi, parce que, voilà, c'est compliqué, de toute façon.
Et pour le Howard, du coup, c'est vrai, au cinéma. Parce qu'on on est tous restés sur cette vision du Conan le barbare de John Milius. Mais c'est pas du tout ça dans les nouvelles. Et...
Bah, ce que j'ai écrit il y a 5-6 ans dans le guide Howard, où j'ai méchamment trollé sur une page, j'ai imposé à mon éditeur, donc Jérôme Vincent de la QSF, de laisser la page telle quelle. Donc, c'est donc une série de questions. C'est les adaptations de Howard au cinéma, et j'ai écrit « Il n'existe à ce jour aucune adaptation de Howard au cinéma. » Point.
Voilà, elle est là.
Page blanche, et on passe à la suivante. Et j'ai imposé la mise en page.
C'est ça.
Donc, parce que justement, je voulais que l'effet soit là, et je pense que l'effet, il est là.
Je confirme.
Voilà. Donc, pour Howard au cinéma, c'est un truc que je dis très souvent aux fans de Tolkien, qui pestent après les Peter Jackson. Et je leur dis, j'aimerais un jour que Howard ça travaille au cinéma comme Jackson a traduit Tolkien.
On sera déjà très content.
On sera déjà très content, mais
il y a un esprit à saisir. Honnêtement, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pour pouvoir les adapter correctement, une grande sensibilité littéraire, et puis ensuite une maîtrise et une connaissance des outils audiovisuels. Qui sont le propre de grands réalisateurs, c'est pas donné à tout le monde.
Et puis alors maintenant, il faut arriver à le porter, si c'est pas un film de super-héros ou une grosse franchise de fantasy, c'est compliqué. Hein.
Et alors, l'autre question, c'est finalement, pourquoi ? Enfin, je veux dire, après tout, on a les livres, c'est de la littérature. Alors, je comprends, hein, moi aussi, je rêve à un Montaigne's Halluciné, je rêve à un Shadow Out of Time, je rêve des choses comme ça, mais... est-ce que c'est indispensable? Parce que finalement, par exemple, l'affaire Charles Lester Ward, qui est un des sommets de Lovecraft, bah, il y a le roman. Je pensais, on parlait hier comme ça avec Patrice de La couleur tombée du ciel, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je n'ai pas vu l'adaptation avec Nicolas Cage, mais il paraît que c'est catastrophique.
Mais violé.
Non, mais en fait, justement, le truc de Nicolas Cage, là, enfin, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler, mais la couleur tombée du ciel, l'horreur, c'est pas la météore. L'horreur, c'est l'absence de réponse du monde autour des fermiers. Ils appellent à l'aide les universitaires, ils appellent à l'aide les policiers, ils appellent à l'aide les journalistes. On les ignore, on se fout de leur gueule, on les prend pour des ploucs, on les renvoie à leurs trucs, on les utilise. Enfin, c'est ça, je veux dire, à un moment donné, c'est souvent ça chez Lovecraft. Hein. L'horreur, c'est nous, hein. C'est l'humanité. Hein. Mmh. C'est le comportement avec les autres. Hein. Et c'est pareil, j'ai souvent des débats avec des gens qui me disent... alors peut-être moins maintenant, mais les personnages de Lovecraft, ils sont stéréotypés, ils sont tous égoïstes. Mais attendez, ils sont tous égoïstes, vous plaisantez ou quoi? Je veux dire, prenez l'appel de Cthulhu. C'est des gens qui passent leur temps, en gros, à se mettre en situation de danger, à braver la mort, la folie, tout ce qu'on veut, pour sauver, si possible. Ils n'y arrivent pas toujours. Ils y arrivent dans Dunwich, par exemple. Enfin, l'humanité d'un bas. C'est complètement dingue. C'est plutôt des altruistes. Hein.
Ouais, complètement, oui.
Ça, ils ont quand même tendance à écrire. De leur journal, alors qu'il y a des chevaux venus qui arrivent par la fenêtre pour les
tuer. Oui.
Là, tu fais référence soit à Dagon, soit à celui qui rôdait dans les ténèbres. Il y a un côté exagéré. C'est pas faux, d'accord. Dans certains textes. Alors, on ne va pas non plus ramener Lovecraft à ces deux nouvelles-là, si tu veux. C'est pas le cas avec
des stéréotypes.
Et pour revenir aux adaptations de Howard, donc bon, au cinéma, tout ça pour l'instant, en tout cas pour l'instant, c'est pas ce qui rend le mieux. Par contre, niveau comics, BD, il y a eu du matos, comme on dit.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu 350 et quelques comics chez Marvel. Après, il y a eu Dark Horse, qui a repris le flambeau. Donc maintenant, là, c'est les ayants droit américains. Conclu un partenariat avec Titan Books. Donc, du coup, il y a une nouvelle série qui sort dans quelques semaines. Mmh. Et puis, en France, on a on a vendu la collection dans 11 pays ou 12 pays maintenant. Donc, c'est dans pas mal de pays, on va dire, on a la collection.
Chez Glénat, tu veux dire.
Chez Glénat. J'ai dit quoi ? Mmh.
Tu as dit Glénat ?
Pas encore. Et donc, la collection chez Glénat, elle part d'un constat qui était très simple, c'est qu'on voulait casser le Conan, le super-héros, qui a toujours le même look, toujours la même... Donc, du coup, comment faire ça? Ben, c'est simplement en permettant à différents illustrateurs de pouvoir s'approprier le personnage, donc ce qui fait que le personnage ne se ressemble pas d'une adaptation à une autre. Il n'y a rien qui m'aurait pile autant que le Conan de John Buscema lorsqu'il est pendant 15 ou 25 numéros, il est habillé pareil en slip de fourrure, qu'il soit dans les terres du Nord, qu'il soit sur un navire, etc. Et donc, en permettant à des artistes différents de pouvoir interpréter le personnage, ça permettait de multiplier d'abord la tenue du personnage et surtout les visions du personnage. Je pense que les nouvelles de Conan sont suffisamment riches pour se prêter à un style réaliste, à un style un peu cartoony, à un style un peu manga. Enfin bref, on a vraiment plein de tonalités différentes dans cette série. Et j'en suis très fier pour cette raison-là. C'est parce que ça a permis de casser l'idée que Conan est un personnage, en tout cas d'aider à casser, plus exactement, l'idée que Conan est un personnage monolithique, qui me fatigue au plus haut point. Le jour où on parlera de Howard et plus de Conan, je serai très content. Mais on n'est pas encore là. Donc, la collection, c'était vraiment cette idée-là. C'était le fait de pouvoir multiplier les approches, les vues, les perspectives sur un personnage iconique. Et je pense que les personnages iconiques doivent être interprétés régulièrement et surtout pas les enfermer dans un moule éditorial qui est délétère. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Marvel sur la fin, c'était n'importe quoi.
Et c'est vrai que c'est marrant, n'empêche, parce que... c'est marrant. Parce que le Lovecraft et le Howard, qui au cinéma... On va dire c'est compliqué, hein, même en série télé, c'est très compliqué. Et du coup, ça marche quand même au niveau visuel. Alors, je pense à Lovecraft, c'est Gutanabe, hein, pour le manga, qui adapte ça de façon mais juste extraordinaire. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est extraordinaire.
Oui. Ouais. Non, mais il y a les textes aussi, il y a l'ambiance, il y a le rythme. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être aussi un rapport intimiste avec le livre. Hein, quand on est seul face au livre, ce n'est pas la même chose peut-être que quand on voit un film. Je ne sais pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les techniques, en tout cas, pour construire la BD, le chemin de fer, etc., c'est celles aussi qu'on a sur les storyboards du ciné, quelque part. Un petit peu, hein. Pas tout à fait pareil, mais bon. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça surprend, parce que autant sur l'imagerie, ça fonctionne, que ce soit pour les travaux d'Howard, puisqu'il y a aussi du Red Sonja et compagnie, hein, du Solomon Kane et autres. Et pour Lovecraft, ça marche, quoi. Je sais pas, enfin, je sais qu'en Lovecraft, il y a Archive 81 sur Netflix qui est Lovecraftien comme il faut, quoi.
Ouais, sauf les deux derniers épisodes, mais c'est vrai que moi, c'est la grosse claque. Ouais, effectivement, il y a une ambiance. Presque, ouais, Lovecraftien, ouais, c'est vraiment super. Il y a un travail sur le son, sur l'image, et puis, enfin, ouais. Après, les derniers épisodes, bon, ça part en sucette, comme souvent sur chez Netflix, quoi. Puis après, bon, il n'y aura pas de deuxième saison, mais ouais, voilà, c'est vraiment une superbe série, quoi. Du coup, c'est ce qui est intéressant. On disait là, voilà, le meilleur Lovecraftien, c'est quand c'est pas du Lovecraft. Là, pour le coup, je pense à Archive 81, c'est un bon exemple, quoi. Vraiment, on a plus l'ambiance, on a saisi quelque chose, mais on voit Lovecraft qui apparaît en arrière-fond quand on y pense, qu'on dit, voilà, mais enfin, une belle série, ouais, effectivement.
Non, mais il faut s'intéresser au thème. À un moment donné, ah ouais, aussi. Quel est le sujet? C'est pas la forme. C'est encore une fois les histoires de Arkham, Misketonique, Necronomicon, Chobnigurat, j'ai rien contre, mais c'est un peu des fausses pistes.
Bah, quand on prend l'anthologie de Del Toro qui est sortie là sur Netflix, bah, c'est un peu foiré. Les adaptations de Lovecraft qu'il a faites, enfin Dreams in the Witch House, et puis je sais plus c'est laquelle, l'autre, j'ai oublié.
C'était le modèle de Pickman.
Ouais, voilà, enfin, c'est pas top, quoi. À la limite, les autres épisodes étaient plus intéressants, notamment l'autopsie, qui est pour moi le meilleur dans le truc, quoi. Mais c'est vrai, enfin voilà, du coup, toujours pareil, quoi. Là, c'est un peu foiré, quoi. J'aime beaucoup.
Mais c'est vrai que pour revenir à notre univers, c'est vrai que le jeu de rôle a fait beaucoup aussi pour démocratiser. Dans l'imagerie populaire ensuite, que ce soit l'univers de Conan et l'univers de Lovecraft, quoi.
Ah oui.
On peut en dire ce qu'on veut, mais l'appel de Cthulhu, ça a été assez énorme, quoi, en termes d'impact derrière, quoi.
Oui, complètement.
Mais qui joue à ça? Je veux dire, c'est des littéraires aussi, plutôt, non? Je crois qu'on peut répondre là. C'est plutôt des littéraires, non? Pour une bonne partie. Non, mais ce que m'avait dit Jaguamar à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 90. Alors, Jaguamar, pour la mémoire, c'était le fondateur et longtemps directeur de Pocket SF. Ouais. C'est lui, notamment, qui avait publié L'horreur dans le cimetière, L'horreur dans le musée, enfin, des livres.
Les papiers du Lovecraft Club.
Ouais, enfin, je trouve que ça portait bien le nom d'horreur. Et ce que m'avait dit Jacques, quand même, c'est que, en effet, la sortie en France du jeu de rôle L'appel de Cthulhu, donc chez Descartes, avait eu un impact significatif sur les ventes des livres chez Pocket. Et donc, j'imagine, c'est dans les années 80, chez les autres éditeurs aussi.
Forcément.
Ouais. Ouais, chez De Noël aussi, ouais, donc Présence du futur.
C'est vrai que l'édition bouquin de la Cassin, elle est arrivée au début des années 90, donc après, on peut dire que c'est un peu l'enfant de ça, peut-être. De même que là, la Pléiade qui fait son annonce, quand ils ont annoncé l'été dernier qu'ils faisaient entrer Lovecraft dans la Pléiade, on peut considérer que c'est aussi l'enfant de l'intégrale Lovecraft chez Mnemos.
Ouais. On attend toujours aussi le Tolkien à la Pléiade, ce qui devrait arriver un jour aussi.
Oui, mais ça va se faire. C'est comme Dick, je pense. C'est des questions de temps. On est dans des logiques naturelles de l'histoire littéraire. Il y a rien de nouveau. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Les auteurs à la marge, importants, je veux dire. Il suffit pas d'être à la marge pour être important. Hein. Mais les auteurs à la marge est important. Et parfois, on prend un risque en étant à la marge, celui notamment d'être justement marginalisé de son vivant. À un moment donné, ces auteurs, ils sont rattrapés. Par l'establishment. Donc voilà, ils deviennent inévitables, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il devient presque une erreur aujourd'hui, un défaut littéraire ou un défaut de culture, que d'ignorer Tolkien, que d'ignorer Lovecraft, que d'ignorer Howard, que d'ignorer Dick. Je veux dire, pareil, dans l'ordre des anecdotes, là, je me souviens d'une anecdote marrante. Je parlais de Jacques Baudot tout à l'heure, je ne sais plus si c'était ici ou avant l'antenne. Oui, mais donc Jacques Baudot, qui était critique au Monde, etc., qui avait travaillé avec Serge Lehmann au Fleuve, qui avait pas mal de choses autour de ces littératures-là. Et Jacques m'avait dit qu'il allait préparer à l'occasion de la sortie des films de Peter Jackson, justement. Donc je crois que le premier de mémoire, c'est 2001. Il me semble, et il préparait pour le Monde des Livres un papier sur Tolkien, et quand il en a parlé à sa direction au Monde des Livres, on lui a dit, mais sur qui? Bon, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible.
Non, il y a déjà deux hors-série là, que j'ai derrière, à la revue Lire, magazine littéraire, quoi, sur Tolkien, donc ça, ouais, ça a vraiment changé, quoi, clairement.
C'est comme ça.
Je ne vais pas devoir faire y aller, messieurs.
C'est ce que j'allais dire. De toute façon,
il n'y a pas de souci.
Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions déjà.
Oui, c'est ça. J'ai bien l'impression. Hein. Ouais. On a appris beaucoup de choses. Ça fait bien plaisir. je regardais encore une fois le chiffre, ça monte encore. Voilà, on en est à 49 361, ça fait 571 souscriptions. Voilà.
Je vais remettre le lien.
Oui, voilà, on va
de la page fois. Ulule. Voilà, ça c'est fait.
Voilà, vous n'avez pas d'excuses, pledgez les gens. Hein.
Oui, de toute façon, on remettra un truc, le premier qui ne pledge pas. On vous voit, on va vous chercher, ne vous inquiétez pas.
Déjà ici, vous avez deux zinzins qui vont. Il y en a un qui a pledgé et l'autre qui va pledger tout à l'heure, hein, juste le temps de trouver la carte.
Ouais, moi, je suis tranquille, je suis clean, j'ai le.
Merci en tout cas. Mais quand je dis les livres changent le réel, c'est ça aussi. Mmh. C'est ces relations-là.
Mmh. Ouais. En tout cas, de toute façon, bon, avant de conclure, on va déjà profondément vous remercier. Bon, déjà. Oui. Donc, Patrice et David, et Guillaume aussi, parce que je tenais vraiment à que tu sois là.
C'est un peu, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Il doit voir David et Patrice, ouais, c'est cool.
On avait passé des bons moments.
C'est un plaisir.
Super cool. Quoi. Donc voilà, bah, du coup, voilà, c'est ça que je voulais faire. Hein. Tu vois, j'avais fait
merci Norman.
Alors, on va mettre Mister Tony, que je remette vite le.
Et ça m'a fait plaisir de voir tes pulps, Patrice, parce que voilà, la thématique cette année, ce sera les pulps. Donc, j'ai un peu bavé quand j'ai vu le War Tales Brunage là. Enfin, on aura une expo, on va avoir des trucs, on va avoir des expos pas mal. Franchement, on aura des War Tales, Astoning, enfin des originaux, enfin des premières publications de Lovecraft sous vitrine. Mais ouais, on a le truc
sympa. Ça, c'est bien ça.
Ouais.
Mais de toute façon, je viendrai, hein, t'inquiète.
Ça t'a intérêt, ouais.
Mais je pense les deux jours cette fois-ci. Hein, c'est bon, là, on se réserve le verbe. Hein. Donc, j'ai mis les liens dans le chat.
Super,
pour,
merci.
Pour le campus miscatonique.
Ce sera mis en redescription de la vidéo, ne vous inquiétez pas.
Tout à fait.
Donc, tout ce qu'on a balancé, on le remettra après.
Encore avec une belle fois... affiche de François Launay.
Ouais. Bah, qui était présent d'ailleurs.
Oui, il était là.
Merci
à vous.
Merci à vous tous.
Et merci.
Bon financement. De toute façon, nous, on va relayer au fur et à mesure parce que.
Nous aussi, ouais.
On est juste des gros fanboys, hein. À un moment donné, faut l'avouer aussi, hein. Ça fait du bien.
Oui, voilà.
Et puis, écoutez, on se dit à une prochaine quand vous voulez. Voilà.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
Voilà.
Merci. Allez, au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée à tout le monde.
Au revoir. Bonne soirée à tous. Allez. À ciao tout le monde.
Salut.